Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler du DMA, on va aussi parler de Blue Sky et de ses différences avec Mastodon, on va tout vous expliquer, et aussi les US qui veulent à nouveau bannir TikTok, et le journal de l'IA, bien sûr qu'on n'oublie pas des choses intéressantes qui se passent toujours. C'est le Rendez-vous Tech tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 556 et nous sommes en mars 2024. Ces intros, je les fais complètement à la volée. Il y a quand même des années et des années de métier là-dedans, j'espère que vous le sentez, que vous le comprenez. Je suis Patrick Béja et très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir également Christophe Kamikas. Comment vas-tu, Christophe? Je vois une magnifique Astro City qu'on devine dans à l'arrière. Je suis impressionné.
Tu l'as croppé. Alors déjà, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Encore une fois, 556, bravo. Franchement, c'est impressionnant.
N'est-ce
Le
pas
numéro à chaque fois.
Je suis moi-même impressionné.
À côté de moi, il y a une petite New Astro City. Tout à fait.
Alors, on ne la voit pas sur la vidéo sur Twitch, je l'ai un petit peu supprimée honteusement. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, Astro City, c'est une borne d'arcade légendaire japonaise. Et au Japon, ils ont des bornes d'arcade où on s'assoit côte à côte pour jouer. On est assis, contrairement aux bornes d'arcade qu'on connaît chez nous en Occident. Et Astro City, c'est une Sega, c'est ça ? C'est Sega qui faisait les Astro City.
Tout à fait, c'est Sega qui faisait ça. Donc voilà, rêve de gosse directement importé. Ça se fait beaucoup, il y a des imports qui se font en Europe, du Japon. Donc c'est une vraie japonaise avec les pièces de 100 yens et tout. J'ai les 100 yens et tout.
Ah oui, d'accord, t'as carrément les pièces de 100 yens pour l'alimenter, pas mal.
Mais oui, monsieur, si je me lève, tu les as, elles sont juste là, mais oui.
D'accord, mais parce que oui, les Astro City, en fait, ils en ont des milliers au Japon, ils s'en foutent, ils savent pas quoi en faire. Et du coup, ça coûte combien d'acheter une borne d'arcade importée comme ça?
C'est difficile à suivre parce que le marché il évolue beaucoup. Aujourd'hui, tu peux les toucher. Tu as plusieurs modèles. Sur une Astro City comme ça, une Astro City, suivant l'état, encore une fois, tu peux les toucher autour de 1000 euros à peu près.
Ça va.
Sans les frais de port. Après, il faut les importer.
C'est pas qu'elles sont importées, c'est que tu le demandes spécifiquement à l'importation. D'accord, oui. Donc,
Des newsletters ou des forums. Hein. C'est déjà qui sont spécialisés pour faire ça. Il y a un marché pour ça. Il faut être très réactif quand c'est dispo, ça arrive. Et puis, paf, tu prends.
D'accord. Elle est très, très belle. J'imagine que tu as branché, tu as une connexion, enfin un écran, peut-être pas. Oui, un convertisseur. Est-ce que c'est encore le CRT dedans ou c'est un écran plat ou ça marche comment?
Ah non, c'est l'écran d'origine. En fait, le meuble correctement d'origine, c'est le vrai tube.
Mais, tu branches pas des Toshiba d'origine. Tu branches pas des cartes JAMA dessus non plus. Quand même.
Bah si, j'ai ça. J'ai
t'as des cartes MBS, JAMA alors, ok. faut expliquer aux gens.
Le connecteur JAMA, c'est le connecteur universel d'un des systèmes des bornes sur lesquels tu fais passer dedans tout. Tu as tous les boutons, l'écran, l'alimentation, etc. Et tu branches en fait l'équivalent de ton système dessus, qui est une console, en fait, c'est l'équivalent d'une console. Et tu avais beaucoup de consoles de systèmes des constructeurs qui étaient compatibles avec ces connecteurs-là. Donc moi, j'ai un slot.
Chaque jeu est une carte, chaque jeu est un ordinateur.
Alors non, ouais, c'est ça. Tu peux avoir des cartes par système par jeu. Et après, tu peux avoir des systèmes multijeux, ce qu'a introduit SNK notamment.
Ah oui,
et
d'accord.
Les créateurs de la Neo Geo. Donc moi, j'ai un slot MVS. Qui me permet de brancher du coup des cartouches MVS qui sont les jeux Neo Geo.
D'accord. Et puis, est-ce que t'as quoi? T'as un System 11, c'est les premières PlayStation. System 11, c'était différent, c'était pas du JAMA, si? Non, peut-être pas.
System 11, non. System 16?
Non. Alors il y avait System 11, c'était la PlayStation 1. Il y avait un System 22, c'était en collaboration avec Namco à l'époque. Bon, écoute.
Ok.
En tout cas, bref. Voilà. On va s'en reparler, avec plaisir. Petite bifurcation avec cette magnifique Astro City. Vous en aurez appris un petit peu sur l'histoire des bornes d'arcade japonaises. On pourrait parler aussi de la levure parce que j'ai fait du pain avec mon fils et on en parlait avant de lancer l'émission. Et la levure, je disais, mais c'est une. Si on remonte un tout petit peu, c'est de la technologie. C'est une technologie incroyable, la levure. On est complètement dans le domaine du rendez-vous tech. Alors, peut-être pas du rendez-vous tech de 2024, mais la levure, c'est une technologie folle. Imagine quand ils avaient les podcasts à l'époque, c'était quoi, peut-être moins 20 000, quelque chose comme ça, j'en sais rien, quand ils ont commencé
les podcasts
à faire
de l'époque,
moins 10 000, je ne sais pas quand ça a commencé, les podcasts, ils disaient, oh, mais rendez-vous compte, le pain, il est tellement moelleux, il est aéré, c'est plus du petit pain plat comme ça, alors il est bon le pain plat, mais rendez-vous compte, ce pain, on peut imaginer l'avenir avec la baguette, tu sais, c'est complètement fou. Moi, je trouve que c'est complètement dans le sujet du rendez-vous tech.
Avant-gardiste, est-ce que tu sais quand a été inventée la levure chimique, tu vois, un ordre d'idée, mais, grosso modo.
Alors, je ne sais pas, mais c'est complètement un sujet tech aussi. La levure chimique, alors oui, c'est pas aussi bien, machin, mais ça permet de démocratiser l'usage de la levure, de ne plus la... enfin, en tout cas, du pain levé, de ne plus le réserver aux personnes qui ont spécifiquement le levain de machin et et on peut le conserver autant qu'on veut, tout ça, c'est incroyable.
Et tu gagnes du temps, du coup tu libères du temps sur ta vie au quotidien pour faire des activités de loisirs et tout ça.
Qu'est-ce que c'est que la tech? La technologie, depuis le début de l'histoire de la technologie, on peut remonter, je sais pas, à la roue et au feu, la tech permet de faciliter, d'augmenter la productivité, c'est pas un mot sale, d'augmenter la productivité de chaque être humain de manière à libérer du temps pour faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut faire plus chacun avec le temps limité jusqu'au début de la révolution industrielle. Vous savez à quoi était consacré le temps? À la production de calories. On produisait juste assez de calories pour survivre. Et la révolution industrielle a amené un gain de productivité qui fait qu'on n'a plus consacré son temps à d'autres choses qu'à produire, à manger, qu'à l'agriculture. Et ça a bénéficié à absolument toute l'humanité. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais il y a ça !» Paf !
Ça va très loin, on pourrait parler beaucoup de choses là-dessus, mais...
L'émancipation
des femmes aussi, ça fait partie de ça. Tout ça,
c'est oui, non, mais alors, tu vois, ça serait un sujet qui serait encore très complexe. Et bien sûr qu'il y a encore des choses à faire, mais bon, bref. Merci beaucoup à Jay Salva à 1078, pas 1077, 1078, Guillaume Grenier. Merci à tous les trois d'avoir rejoint le Patreon, patreon.com/rdvtech. J'espère que cette petite aparté sur différents sujets tech vous aura plu. Et merci aussi à WakaTP et SSI78 qui sont les producteurs de cet épisode spécifiquement. Et cette intro, je pense qu'on peut la leur dédier à tous les cinq. Merci à vous tous et merci à tous ceux et toutes celles qui choisissent de soutenir le rendez-vous tech qui permettent à cette émission d'exister finalement. C'est un petit peu ça. Et j'aimerais aussi dire que peut-être, on va voir si on fait un after show après, dont bénéficieront les Patriotes. J'aimerais vous parler un petit peu d'Akira Toriyama, puisqu'on parle de sujets qui ne sont pas forcément tech, et en même temps de Pi.ai, qui est peut-être la première voix, qui a la première voix par IA, qui est dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que c'est suffisamment bien, je vous en ferai une petite démo en after show, on verra. Vous pouvez aller sur Pi.ia pour tester ça vous-même. Mais on parlera des deux en même temps, on va voir si je réussis le mélange. En attendant, on va se lancer dans les infos de la semaine, et on commence tout de suite avec... Le premier sujet, on nous parle, tiens, une biotechnologie, la levure et tous les mycéliums que nous exploitons pour conserver et améliorer le goût de nos aliments depuis des millénaires. Mais tout à fait, c'est une biotechnologie. Je confonds la levure et le levain. Oui, c'est vrai, certainement. Je pense que je confonds la levure et le levain. Pour tout vous dire, je ne suis pas sûr de le levain. Enfin, alors le pain au levain, c'est pas la même chose que le pain classique qui est fait avec de la levure. C'est peut-être bon. J'irai m'enseigner.
Il est temps de lancer un podcast cuisine, je pense.
Non, c'est pas bon. Ça. C'est que le podcast tech sur la levure, il faut que je fasse ma veille. J'ai pas fait ma veille sur la levure, donc je peux pas vous expliquer. Là. Contrairement au DMA, que je peux du coup vous expliquer un petit peu. Le DMA entre en vigueur. Il est entré en vigueur il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est que le DMA ? C'est, comme on en parle depuis des semaines et des mois, une loi européenne qui est très complexe et très vaste, qui, en gros, pour la résumer à sa plus simple expression, vise à diminuer ou à contrer les monopoles qui se sont établis, selon certains, dans le domaine de la tech et à libérer les marchés qui sont contrôlés par les grands acteurs de la tech, spécifiquement les GAFAM, mais pas forcément que eux, disons que les premiers effets les touchent plus particulièrement eux. Ces marchés sont sujets à controverse parce qu'on parle par exemple des apps sur iPhone, sur iOS. Et c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce que l'iOS est un OS qui est conçu, développé, vendu uniquement par Apple, mais c'est leur produit, leur proposition. Et quand on dit qu'ils ont le monopole sur le marché des apps, eh bien évidemment, puisque c'est leur produit. Mais donc, il est un petit peu controversé cette idée de dire est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un marché sur lequel Apple a un monopole si c'est juste leur produit ? Eh bien écoutez, on pourrait en débattre jusqu'à demain, mais l'Union européenne, dans l'établissement du DMA, a tranché et a dit oui, c'est un marché qui devrait être plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui parce qu'il est extrêmement important. Alors, c'est vrai que dans le camp des pour ouvrir ce marché, on argue du fait que le marché est très important parce qu'on utilise énormément d'apps spécifiquement sur iPhone et certains disent on utilise énormément d'apps sur Android, donc il y a une concurrence. C'est pas faux. Mais si on regarde du point de vue des développeurs, si on monte du point de vue des consommateurs au point de vue des développeurs, eh bien, les développeurs, eux, sont contraints de passer par le marché des apps d'iOS spécifiquement. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont les revenus. Donc, si on parle du marché effectif des apps sur smartphone, iPhone et Android inclus, eh bien, celui qui contrôle le marché de l'iPhone contrôle le destin des développeurs. Puisque, encore une fois, les revenus des apps sont majoritairement sur iPhone. Donc, en ce sens, et c'est l'argument de l'Union européenne, on va dire, on imagine ce sur quoi ils se sont basés, en ce sens, effectivement, il est peut-être bon d'ouvrir un peu au forceps le marché des applications sur iPhone pour qu'il y ait une concurrence plus saine pour les développeurs. Et c'est ce qui se passe avec le DMA. On pourrait parler de nombreux effets du DMA, mais je vais vous donner trois exemples. Le premier, c'est qu'on va pouvoir, une fois qu'elles seront développées et à disposition, on pourra installer des App Store tiers sur iPhone. Des App Store tiers, ça veut dire qu'on pourra avoir, par exemple, un App Store Google sur iPhone, un App Store Microsoft sur iPhone, un App Store Epic Games sur iPhone ou d'autres. Hein, pourquoi pas ? N'importe qui a une société un petit peu sérieuse, pourra proposer un App Store alternatif avec des moyens de paiement alternatifs, avec des applications alternatives qui ne seront pas contrôlées, dans une certaine mesure, par Apple. Il y a plein de subtilités à tout ça, mais on vous référera à des épisodes précédents ou suivants pour les détails. Aujourd'hui, je vous parle de l'impact spécifique direct. Un autre impact, c'est que la puce NFC, par exemple, de l'iPhone, devra désormais être accessible aux développeurs. Jusqu'à maintenant, elle n'était utilisable
que par Apple. Oh, ça, c'est trop bien.
Donc, on a un développeur ici qui est content. Donc, la puce NFC de l'iPhone sera accessible aux développeurs. Ça veut dire aux grosses sociétés qui vont pouvoir proposer des moyens de paiement, des apps de paiement, par exemple, qui pourront passer, utiliser la puce NFC, vous faire payer sans contact. Ou alors, pour les cartes de transport ou ce genre de choses, on pourra le faire sans que la fonctionnalité soit intégrée à l'OS, ce qui est ce qu'a dû faire en fait la RATP pour intégrer le Pass Navigo à l'OS. Ça arrive normalement dans quelques mois. Il y a d'autres exemples. Les paiements tiers sur le Google Play Store seront autorisés. Il y aura des conditions particulières avec des paiements par d'autres biais, comme c'est le cas pour Apple également, mais les paiements tiers seront autorisés avec des taux de commission réduits pour Google. Il y a aussi l'interopérabilité des messageries, c'est-à-dire que les messageries qui ont une immense base d'utilisateurs dans l'Union européenne devront autoriser l'interopérabilité avec d'autres messageries. C'est le cas de WhatsApp, par exemple, qui est contrôlé par Meta, qui a détaillé le fonctionnement de ces choses-là. Il faudra que les applications compatibles utilisent un protocole extrêmement sécurisé, comme le protocole Signal, qui est celui qu'utilise WhatsApp. Et si c'est le cas, eh bien, on pourra envoyer, par l'intermédiaire d'une autre messagerie, un message à un utilisateur de WhatsApp directement. Quel est le but de tout ça ? Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Le but est d'ouvrir le marché, d'ouvrir le domaine qui est contrôlé, verrouillé par une de ces sociétés. En l'occurrence, pour WhatsApp, eh bien, tout le monde utilise WhatsApp. Et évidemment, ça a été fait alors, par différents moyens qui sont plus ou moins coercifs, on va dire. Mais au final, que ça a été par les mérites de WhatsApp ou par la force de Zuckerberg et de l'écosystème de Meta et Facebook, que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même. Le marché aujourd'hui est verrouillé. Et donc, d'autres acteurs ne peuvent pas entrer sur ces marchés et le faire évoluer au bénéfice des utilisateurs. L'Union européenne a décidé que c'était une chose qu'il fallait changer et c'est ce que fait le DMA. Alors, on peut arguer de la justification de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et puis, est-ce qu'il y a peut-être d'autres effets que je n'ai pas évoqués qui sont importants à noter ?
Ah oh, oui, il y en a d'autres que j'ai notés. Ouais. Alors, ce que j'en pense déjà, c'est que sur le côté App Store, c'est clairement une mine d'or pour Apple. Hein, on le sait, cette partie App Store, ils se font énormément de marge là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont rechigné beaucoup pour l'ouvrir. Et ça ne serait pas passé. Enfin, ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes s'il n'y avait pas eu cette loi, évidemment. C'est une bonne chose dans le sens où ça va permettre... La concurrence a toujours, ça apporte aussi du challenge. Et du coup, ils vont se mettre en question sur quelques points. On l'a vu déjà en avant. Ils avaient commencé à réfléchir au rate, aux marges qu'ils prennent sur les pourcentages de vente des applications sur les stores, en préparation de ça, justement. Là, en fait, arrivé avec la concurrence sur les App Store, il va pouvoir chambouler un petit peu l'état du marché des apps sur iOS, même si on l'a sur Android. Après, est-ce que dans la pratique, ça va vraiment être le cas ?
Je suis pas si convaincu que ça. C'est la grande question. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est très bien votre DMA, mais dans la pratique, ça ne va rien changer du tout, ça ne va rien apporter à personne. » Et c'est de la complexité, de la lourdeur l'Union européenne, en plus, pour les sociétés, en particulier peut-être les plus petites, qui vont du coup avoir plus de mal à se développer.
Oui, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à avoir un App Store, un store d'applications sur l'iPhone, à nouveau installé, qui soit bien référencé, qui soit au niveau d'expérience de ce que proposait Apple aujourd'hui, bah, y a un peu de boulot. Moi, je le vis plutôt côté Android. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais c'est au niveau de la population qui s'en sert, c'est très minime. C'est vraiment les power users ou c'est vraiment dans un cas très spécifique d'une app qui ne serait que là-bas. Donc, peut-être qu'il y aura, tu vois, ce genre de combat, tu vois, des apps qui vont être exclusivement sur un store et du coup, tu vas venir installer le store. Ça me rappelle un petit peu l'époque où tu avais l'Epic Game Store qui était arrivé face à Steam, tu vois. C'était pareil, tu avais des concurrences de gens en disant bah, il est exclusivement sur telle plateforme, et c'est ça aussi qui a incité les gens à migrer sur un store en particulier. Peut-être qu'il y aura ça, mais aujourd'hui, je vois pas d'application, à part, on va dire du coup, Epic, pareil, avec Fortnite qui pourrait arriver en disant
bon, on va en parler d'Epic dans une seconde de cette
avec notre store. Tu vois, est-ce que tu as un concurrent aussi gros qui va pouvoir drainer des utilisateurs sur un nouveau store aujourd'hui? J'en vois pas des masses, quoi.
C'est vrai que tu évoques Epic avec le jeu vidéo. On pourrait penser à Microsoft avec Xbox. Un store Xbox et leur Game Pass, qui est on va dire le Netflix du jeu vidéo, une offre de jeu par abonnement. Ça pourrait aussi donner quelque chose, même si le store est accessible par le web. Enfin, le Game Pass est accessible par le web. Bon, là, ça serait des jeux en streaming ou en téléchargement qui pourraient faire un impact. Pour tout ce qui n'est pas jeux vidéo, c'est un peu plus difficile à voir. En même temps, c'est ça le but, c'est d'ouvrir et de voir ce qui se passe.
Clairement, tu vois. Clairement, mais tu vois, les petits développeurs indépendants dans leur coin, ils vont ils vont pas switcher comme ça. De toute façon, ils ont besoin de découvrabilité. Et aujourd'hui, la plupart des utilisateurs vont être sur l'App Store, et c'est là où leur application va se faire voir. Alors c'est difficile parce que du coup, tu dois te plier aux règles. Donc peut-être que tu vois, les autres stores vont avec des nouvelles règles, et peut-être que c'est ça qui va aussi faire bouger les développeurs, bouger les applications et peut-être bouger les utilisateurs. Mais j'y crois pas beaucoup sur cette partie, dans ce sens-là en tout cas. Je vois plutôt des gros acteurs arriver avec leurs grosses licences, leurs gros trucs. On dit, mais voilà, on arrive, on amène tout ça. Maintenant, si vous voulez nos trucs, vous venez ici. Et effectivement, les gros acteurs, Microsoft, Epic pour le jeu vidéo, peut-être Google, mais j'y crois pas trop. Tu vois, un Play Store sur Android. Le Play Store d'Android importé sur iOS. Oui. On pourrait imaginer ça, quoi.
Peut-être dans un premier temps, et puis à terme. Tu vois, il y aurait plusieurs étapes. Évidemment que cette année, il ne va pas y avoir des acteurs inconnus qui vont arriver avec un App Store. Mais peut-être dans un premier temps, des acteurs plus connus. Alors effectivement, ça favorise les gros. Mais ensuite, pas forcément des petits acteurs qui vont ouvrir des Play Store, mais qui tireront parti des conditions des autres App Store et qui, du coup, feront évoluer l'App Store d'Apple également et les conditions d'utilisation d'Apple également. C'est possible. Mais tu vois, en deux étapes, dans 2 ans, 5 ans, ça peut prendre beaucoup de temps. On va pas repartir sur certaines questions. Je les évoque pour qu'on l'ait dit, mais on ne va pas repartir dans ces explications qui sont extrêmement longues. Les raisons pour lesquelles Apple connaît un tel succès et a une telle dominance alors qu'ils sont un seul constructeur avec une seule gamme de téléphones, eh ben, peut-être que c'est justement parce qu'ils sont tellement stricts. Donc ça les oblige à diluer cette offre qui plaît clairement aux consommateurs. Donc ça, c'est un point important. Et est-ce qu'il faudrait les obliger à diluer l'offre ? Bon, bah, c'est une question dont on pourrait débattre. Il y a aussi la question des conditions financières qui sont imposées par Apple et par Google. Si on veut utiliser, en tant que développeur, c'est-à-dire si on veut être présent sur d'autres App Store, bah, faut quand même payer de l'argent à Apple. On en a déjà parlé et il y aurait des choses à dire là-dessus. On ne va pas évoquer ça aujourd'hui encore une fois parce que ça prendrait trop longtemps. Mais oui, il y a plein de choses. C'est très, très vaste tout ça. Ce qu'on retient, ce qu'il faut retenir, c'est que le but, donc, est d'ouvrir ces marchés. Et on vous en a donné les exemples les plus importants. Il y a une autre chose que j'aimerais évoquer, c'est le NFC, comme je disais.
Ouais, j'allais en parler justement aussi. Vas-y. Ah non, parce que moi, je le vis du coup côté Android. Alors, je trouve que le NFC, c'est bien de pouvoir y accéder pour des usages de tout ce qui est équipement connecté, tout ce qui va être carte de fidélité, etc. C'est bien de l'avoir accessible dans les applications. Il y a plein d'applications qui en ont besoin de ça aujourd'hui, qui est limité côté iOS. Pour autant, alors pourquoi Apple le fait, cette sécurisation, enfin pourquoi le bloque la partie NFC, c'est principalement pour sécuriser la partie paiement, puisque la NFC est utilisée pour tout ce qui est système de paiement avec le Apple Pay. Ça, c'est plutôt bien sur le papier. Après, Android le fait aussi, c'est-à-dire qu'ils ont sécurisé les moyens de paiement et c'est ouvert et accessible derrière, donc on peut faire les deux. Oui. Par contre, le gros travers que je vois, c'est qu'aujourd'hui, là-dedans, dans cette loi, Apple va aussi être contraint à proposer d'autres apps de paiement que seul Apple Pay. Et ça, pour moi, c'est le travers à devenir n'importe quoi, parce que j'ai l'expérience côté Android, où aujourd'hui, j'ai trois apps de paiement différentes, en fait, pour utiliser le NFC, avec des expériences toutes pétées plus les unes que les autres, donc un Google Pay, deux banques, et Ticket Resto, un truc comme ça, je crois. Et les trucs, ils se marchent dessus, quoi, ça marche vraiment pas bien entre eux. Et les applications sont... Ah, t'as rien intégré, tu vois, donc tu casses toute l'intégration de l'écosystème qui fait que ça marche très bien. Et là où iOS est très fort, Apple est fort en fait de position. Aujourd'hui, les banques, si elles veulent être sur les iPhones, elles sont obligées de s'implémenter sur Apple Pay. Point barre. Et t'as une expérience qui marche hyper bien en tant qu'utilisateur. Et moi, j'ai le travers inverse où, bah non, chaque banque est avec sa propre application et c'est la foire et ça marche pas bien ensemble. C'est pas hyper intégré. Elles sont à moitié pas compatibles Google Pay. Elles marchent pas avec la montre, par exemple, des trucs comme ça.
Et c'est
dommage.
C'est bien que tu en parles parce que ça illustre deux choses. D'une part, le fait que la force d'Apple, c'est ce contrôle qu'on les oblige à briser, comme je le disais tout à l'heure, c'est un exemple parfait. L'histoire des apps de paiement, ça risque d'être particulièrement pénible sur iOS. On en parlait dans le Discord et on parlait du fait d'appuyer deux fois sur le bouton power, enfin sur le bouton d'action de l'iPhone pour lancer l'application de paiement. Et bien ça, je ne le savais pas, mais Cassim nous l'a rappelé sur le Discord, ça pourra être réattribué, c'est-à-dire qu'on peut réattribuer le fait d'appuyer deux fois pour lancer l'app de paiement d'Apple, l'attribuer à une autre app, donc qui serait une autre app de paiement, par exemple, si toutes les banques se réunissent pour faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vero ou Hero, le successeur de Paylib, bah clairement, les banques vont vouloir quitter Apple Pay et aller sur leur propre solution, dans laquelle ils n'auront pas de commission, même minime, à payer à Apple. Et donc, on pourra l'attribuer à ça, mais il y a une puce NFC d'Apple qui n'est pas concernée a priori par ce changement, est-ce que tu sais laquelle ? Quelle puce NFC n'est pas obligée d'être ouverte par Apple ? Question piège.
Quelle puce NFC ? Ouais. Non, vas-y, dis-moi, celle de la montre, de l'Apple Watch.
Exactement, exactement. Je vois que tu montres ta montre. C'est exactement ça. En fait, l'ouverture, si je ne me trompe pas, ne concerne que le téléphone. Et donc, on pourra payer par téléphone, évidemment. Mais sur la montre, et les utilisateurs d'Apple Watch savent que c'est l'une des utilisations principales de la montre, c'est de payer facilement. Et bien, si il n'y a que Apple Pay qui peut être utilisé par la montre, ça pousse les utilisateurs à continuer à utiliser le système Apple Pay, à le privilégier. Et je vais vous dire un truc. Si c'est le cas, et que ma banque quitte Apple Pay pour rejoindre un autre système qui serait propriétaire de toutes les banques françaises, par exemple, ou européennes, et que je ne peux pas l'utiliser sur la montre, eh ben moi, je change de banque. Ou au moins, j'ouvre un compte sur une banque qui peut utiliser Apple Pay sur la montre.
Et donc, je disais pareil que toi.
C'est la même chose. Et donc, on se dit, c'est quoi le premier réflexe ? C'est de dire, oh, mais du coup, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, ouais. Ça sert à rien, le DMA, machin. Moi, je dirais, oui et non. C'est que ça ouvre un petit peu le marché à la concurrence et ça nous force à choisir la solution qu'on préfère plutôt que celle qui nous est imposée. Donc, le but du DMA est exactement atteint. Bon, le jour où ils forceront la montre à ouvrir le NFC, ça se trouve, c'est le cas aussi, mais je ne crois pas. Donc, bref, intéressant à noter. D'autres petites choses à dire sur le NFC. D'abord, sur le DMA. Ça, un autre élément important que je n'ai pas évoqué, c'est les navigateurs par défaut et les moteurs de navigateur web sur iOS. On pourra aussi choisir le sien. Oui, vous pouvez déjà avoir Chrome ou Edge ou autre chose sur iOS, mais ils sont obligés d'utiliser WebKit, qui est le moteur derrière. Donc le navigateur, ils utilisent tous le même moteur de navigation. Ça ne sera plus le cas aujourd'hui, on pourra avoir des moteurs de navigation différents, et ça touche au-delà de WebKit, parce que vous le savez que le navigateur, c'est un petit peu l'interface, presque le système d'exploitation du web, et quand tous les téléphones iOS sont obligés d'utiliser le même moteur, ça définit certains standards. Là, ça va ramener un petit peu de concurrence, même si Chrome est de fait, de facto, le leader sur le desktop et sur Android. Bah là, le fait qu'on pourra avoir un moteur Chrome Chromium sur iOS aussi, ça va un petit peu bouger les lignes à ce niveau également. Donc, possiblement.
C'est pareil, tu as un enjeu d'intégration aussi là-dedans, c'est que souvent dans les applications aujourd'hui, tu peux avoir des parties d'applications qui vont être servies avec une interface web, donc tu as des WebView, donc des pages web intégrées dans l'application, et ça utilise aussi le moteur de WebKit, du coup, de Safari, et ça partage aussi des infos avec le système. Sauf que demain, si tu as ton navigateur Chrome à côté, et c'est ton navigateur principal, dans les applications, tu auras une autre expérience et tu n'auras pas les mêmes infos partagées avec ton Chrome. Donc là aussi, tu casses un peu l'intégration dans le système.
Tout à fait.
Côté Android,
autre chose. Oui, vas-y.
Ouais. Non, je vais juste répondre à Cassim dans le chat là, qui disait, mais pourquoi en fait Apple ne fait pas un système d'intégration en fait, qui autoriserait les applis tierces à utiliser le système Apple Pay, notamment de la montre? C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, pour avoir bossé dans le monde du paiement bancaire, la montre, en fait, elle stocke les infos bancaires. Il faut qu'Apple stocke les infos bancaires pour pouvoir payer pour. Et c'est ça qui fait que tu as un coût supplémentaire et que tu as tout le service qui vient avec. Et c'est ce qui fait que Apple Pay est Apple Pay aujourd'hui. Donc, si tu veux une intégration, une interopérabilité, j'ai réussi à le dire, avec les autres systèmes, ben finalement, tu deviens une interface de paiement à proprement parler.
Apple Pay pour ça. Il pourrait donner accès au NFC de la montre, soit à Apple Pay, soit à un autre système.
Il pourrait le faire.
Il pourrait le faire.
Oui, mais il ne pourrait pas garantir la sécurité du paiement.
Oui, bien sûr.
C'est ça, garantir la sécurité du paiement, garantir la synchronisation de ta carte en fait. La synchronisation de ta carte entre ton téléphone et ta montre, par exemple, aujourd'hui, c'est garanti par le système qu'il y a derrière. Demain, il ne pourrait pas le faire en fait.
On pourrait parler de tout ça pendant... Chaque domaine que touche le DMA pourrait être le sujet d'un épisode complet. Donc, on ne va pas trop partir dans les détails. Mais sur les questions de paiement, par exemple, la motivation principale des banques, à mon sens, pour lesquelles ils voudraient devenir votre solution de paiement, c'est qu'ils vont avoir plus d'informations sur vos paiements qu'ils n'en ont quand vous passez par Apple Pay. Parce que Apple Pay donne très peu d'informations, même si évidemment, c'est votre banque derrière, donc elle a les infos, mais ça sera encore plus le cas s'ils ont leur propre solution de paiement, en plus du fait qu'ils n'auront pas une petite commission à payer à Apple. Et oui, évidemment que c'est pas... Alors on dit, oh, c'est de la mauvaise volonté d'Apple. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la volonté. Ils veulent évidemment garder la main sur tout ce qui fait leur système pour le confort de l'utilisateur, mais avant tout pour leur bénéfice à eux. C'est évident. Je veux dire, c'est un truisme complet de dire quelque chose comme ça. Évidemment qu'Apple ouvrira le minimum auquel ils sont forcés par la loi pour garder tous les avantages qu'ils peuvent. Et c'est pas qu'ils pourraient pas. Évidemment, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas. Et je voudrais conclure ce sujet sur le DMA avec un petit mot sur Epic et Apple qui sont repartis dans un combat qui s'est conclu en fait très très vite. Vous vous souvenez certainement qu'Epic était le meneur du combat contre Apple, qui on pourrait presque arguer de l'idée que c'est en partie à cause d'Epic ou grâce à Epic que le DMA a pu être voté et être implémenté. Parce que Epic ne voulait plus payer à Apple les 30% de commission sur l'App Store, et donc ils ont implémenté leur propre solution de paiement dans le jeu Fortnite, ce qui a conduit Apple à bannir immédiatement le compte développeur d'Epic, qui a du coup été dans l'impossibilité de continuer à offrir Fortnite sur iPhone. Ils ont annoncé, bien sûr, chez Epic, le souhait de proposer leur propre App Store dans le cadre du DMA, grâce à leur société suédoise qui avait un compte, qui a ouvert un compte développeur chez Apple. Sauf qu'il y a quelques jours, Apple bannit le compte d'Epic. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas Tim Sweeney, le président d'Epic, et qu'il dit des choses méchantes sur Apple. Ce qui était un raisonnement... alors oui, ils ont déjà montré qu'on ne peut pas leur faire confiance. Phil Schiller a envoyé un mail à Tim Sweeney en disant « Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance ? Est-ce que vous allez respecter les règles ?» Tim Sweeney dit « Oui, nous avons toutes les intentions de respecter les règles. » Et quelques jours plus tard, parce que Tim Sweeney disait « Ah, ces règles... » Apple montre qu'ils ne veulent pas se conformer à l'esprit du DMA, ce qui est complètement vrai, ils font le minimum possible, eh bien, ils bannissent le compte d'Epic, ce qui est clairement un raisonnement un petit peu limite, quoi. C'est du pre-crime, on est dans
exactement ça, c'est les pré-cogs, c'est Minority Report.
C'est ça, c'est Minority Report.
Tu prévois que tu vas faire suspicion de...
Ouais. Non, mais et du coup, quoi, l'Union européenne regarde ça d'un peu plus près, ils disent « Mais attendez une seconde, vous pourriez, nous, on va mener une petite enquête, on va peut-être... » Et là, Apple dit « Ah, non, ok, d'accord, bon, on rétablit le compte d'Epic, ok, bon, très bien, puisque c'est comme ça, Epic peut avoir son compte de développeur. » Et l'UE qui fait « Ouais, on a montré que le DMA, c'est pas une blague, et Epic qui fait « Ah, Apple a été contraint, machin. » Alors clairement, Apple a l'air d'être ressorti par la petite porte de cette histoire, parce qu'ils ont voulu faire les gros yeux et ils se sont fait taper sur les doigts par l'UE et ils ont été obligés de rétablir le compte d'Epic. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire, en deux mots, hein ? Parce que moi, j'ai une autre...
C'est de bonne guerre. Non, voilà, c'est le jeu du business. Hein. Vraiment, c'est un jeu business. On essaye, on tente, on essaie de faire chier l'autre et puis voilà. Mais
tu penses qu'ils ont tenté et que ça n'a pas marché et qu'ils ont dit « Bon, ok, c'est bon, allez, vous pouvez l'avoir ».
Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a un truc politique. Il y a peut-être un truc en travers, tu vois, qui est resté. Du côté d'Apple, ils ont fait, on va jouer le jeu pareil dans le même sens. Ils sont forts là-dessus. Je pense pas qu'ils espéraient que ça passe comme ça, évidemment. Enfin, vu le tollé que ça fait, enfin, c'est.
Alors, évident. Justement.
Mais juste pour dire vis-à-vis d'Epic, quoi. Dire, attends, tu vois, on vous regarde. Et à mon avis, derrière, ils vont être là sur toutes les lignes contractuelles, tu vois, du store. Voilà. La moindre dérive, pan, direct.
Mais alors, c'est ça. Parce que. La réaction de tout le monde, et c'est normal, c'est de dire « Ah, oh, bah, ils sont fait rembarrer, comment, pourquoi est-ce qu'Apple... » Et ma réaction aussi, c'est « Pourquoi est-ce qu'Apple a tenté ça ? Mais enfin, ça n'a pas de sens, ils savaient bien que ça n'allait pas passer, machin. » Et en fait, je pense que c'est exactement ça. S'il y a... Parce qu'Apple, ils ne font pas les choses... Enfin, ils sont hyper prévoyants, malins, ils ont des avocats qu'ils payent très très cher, tu vois, ils ne vont pas juste faire tout un scandale en sachant qu'ils vont se faire rembarrer et décider de le faire quand même, ils avaient prévu le coup. Et je pense que oui, effectivement, ils avaient prévu le coup. Et les faits, en fait, bien sûr qu'ils se font rembarrer, mais les faits, c'est que si demain, Epic ne joue pas le jeu,
c'est ça.
La sympathie du public pour Epic en est d'autant diminuée. C'est-à-dire que là, on dit « Oh, ben enfin, ils disent qu'ils ne vont pas respecter les règles, ça va, Apple, vous poussez un petit peu. » Ben oui, mais si dans un an, Epic ne respecte pas les règles, la réaction du public, ça sera quoi ? Ça sera « Eh ben... » Eh ben oui, ben là, c'est clair, vous avez dit que Apple vous a forcé à dire que vous alliez respecter les règles. C'est ça le truc. C'est ça qui était important, en fait. Et je crois
Apple qui va être là, voilà, on vous l'avait bien dit, vous voyez ? C'est eux, les méchants.
Mais oui, c'est complètement un truc de perception.
Ben oui.
Et donc, ils retirent leur coup d'échec en 4D, tu vois. Ils retirent à Apple une carte de communication, du marketing, en faisant en sorte que ils ne peuvent plus autant, même si ce n'était pas super bien passé la première fois, mais ils ne peuvent plus autant jouer les victimes s'ils contreviennent aux règles établies par Apple pour la gestion de leurs apps et de leur App Store. Donc, je pense qu'au final, ça s'est passé, tu vois, c'est Kaiser Soze, ça s'est passé exactement comme ils avaient prévu chez Apple. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient à la base.
C'est très, très malin.
Oui, je pense.
Et maintenant, tout le monde est bien dans ces bottes-là, et ils sont bien contraints aussi. Donc, à suivre, ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer cette partie-là.
À suivre pour le DMA dans son ensemble et ses conséquences pour tout ce qui est marché et mobile, et pas que mobile, hein, ça, c'est dans plein de domaines. Deuxième sujet que je voulais évoquer, Blue Sky et Mastodon, quelle est la différence ? Je vais faire un petit peu un explication no jutsu. Je regarde Jujutsu Kaisen en ce moment, c'est pas tout à fait Naruto, mais bon, je suis dans l'ambiance. Donc, Blue Sky versus Mastodon. Je pensais pas traiter ce sujet, mais j'ai entre-temps écouté Mike Masnick en parler. Mike Masnick est passionnant. Et je trouve qu'en fait, Blue Sky est beaucoup plus qu'un autre Mastodon, qu'une alternative au Fediverse, qui fait exactement la même chose que le Fediverse en parallèle. En fait, il y a beaucoup plus que ça. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce que c'est que Mastodon et le Fediverse ? En fait, depuis la création de Twitter, ou quelques années après, il y a des gens qui souhaitaient avoir une alternative au modèle centralisé de Twitter. C'est-à-dire que Twitter est une forme de communication qui est intéressante, qui a son utilité et ses défauts, bien sûr, et la réponse d'une partie du public à l'existence de Twitter, c'était « il faudrait que nous ayons une alternative décentralisé et libre à Twitter. » Et donc, les développeurs de Mastodon ont utilisé un protocole existant qui s'appelle ActivityPub, qui en gros permet d'envoyer des updates à différents récepteurs. Et en gros, ils s'en sont servis pour créer Mastodon. Il y a plein d'autres types de services type Mastodon, PixelFed et des choses comme Instagram, des choses comme Twitter, etc. D'une manière générale, ActivityPub et le Fediverse est un système qui permet d'envoyer du contenu à plein de réseaux différents, à plein de services différents, avec une liberté décentralisée totale. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça a une application utile pour les utilisateurs ? L'avenir nous le dira, on ne sait pas encore. Mais quand Blue Sky est arrivé, on avait un petit peu l'impression que c'était la même chose, mais pas compatible. Et donc, pourquoi Blue Sky ? Eh bien, remontons également un petit peu. Blue Sky, c'est une initiative lancée par Jack Dorsey, quand il était à la tête de Twitter, qui a financé le développement d'un protocole différent, aussi dans l'idée que Twitter était trop centralisé. Donc, vous vous dites, bon, bah, trop centralisé, le Fediverse et Blue Sky, c'est un petit peu la même chose. Pas tout à fait. En fait, l'idée de Blue Sky, c'est d'externaliser, non pas forcément les serveurs, mais c'est possible, hein, on peut imaginer des serveurs différents pour des services type Blue Sky, qui est en gros une copie de Twitter, hein, soyons honnêtes. Mais le but principal, c'est d'avoir l'externalisation des flux et des services de modération. Et ça, c'est hyper intéressant. Les flux, d'une part, parce qu'on peut choisir d'avoir différents flux qui ne sont pas juste des listes de personnes à suivre ou de sujets à suivre, qui sont des flux algorithmiques qui vont sélectionner dans la grande mer de données qu'il y a sur Blue Sky, tous les tweets, toutes les réponses, tous les likes, tout ça, c'est commun, tout le monde y a accès, et donc les flux vont pouvoir choisir de manière algorithmique, des algorithmes spécifiques décidés par le concepteur de l'algorithme, ce qu'on va vous afficher. Donc ce n'est pas juste une liste de personnes à suivre, c'est vraiment ce qu'on va faire ressortir, ce qu'on va faire remonter, ce qu'on va vous montrer. Ça, c'est plein de flux, il y en a déjà plein sur Blue Sky. Mais il y a un autre aspect qui est hyper intéressant, c'est l'externalisation de la modération. C'est-à-dire qu'on pourra également choisir non seulement les flux qu'on va suivre, on pourra en avoir plusieurs, mais également les services de modération qu'on va suivre. C'est-à-dire qu'on pourra choisir d'avoir telle modération appliquée à tel flux ou telle autre modération appliquée à tel autre flux. L'idée étant que philosophiquement, ça n'est plus une entité centralisée qui est responsable de la modération. Et on pourra choisir les affinités, alors on pense bien sûr aux affinités politiques, hein, mais il n'y a pas forcément que ça. Tout type d'affinité de modération pourra être vendu dans un marché, par exemple, hein, ou même simplement accessible gratuitement, pour s'appliquer, là encore, à la mer de données, l'ensemble des données que constitue le réseau Blue Sky. Donc, ces éléments-là, il y en a d'autres, hein, sont vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'on a l'externalisation des flux et de la modération qui font partie intégrante du protocole Blue Sky. Il y a aussi l'externalisation des données, on peut héberger ses propres données, c'est un petit peu complexe techniquement, peu importe. Mais ces aspects-là me paraissent vraiment intéressants. Mastodon le fait aussi. Mais ces aspects-là sont vraiment intéressants parce que c'est en fait une décentralisation qui n'est pas une simple décentralisation un petit peu technique de se dire on va avoir différentes communautés qui vont chacun avoir leur serveur, qui est intéressante, mais un petit peu plus évidente, on va dire, quand on pense à de la centralisation sur Internet. Là, c'est vraiment une réflexion sur ce qui constitue ce service et en externaliser les parties qui comptent, les flux et la modération. C'est ce qui fait que le service va avoir tel ou tel comportement, telle ou telle couleur, tel ou tel impact. Et c'est une externalisation des fondamentaux du service qui va ensuite pouvoir être customisé. C'est assez différent de simplement se dire on va choisir de créer une communauté ici, une communauté là, avec la possibilité pour elles de communiquer entre elles. Chacune va décider de sa propre modération, mais si on veut par exemple avoir la modération, je ne sais pas moi, de l'amicale du rugby de Nantes, il faut aller sur le serveur de l'amicale du rugby de Nantes pour avoir cette modération-là qui est bannie, qui est machin. Sur Blue Sky, on pourra choisir le flux, n'importe, il n'y aura pas un serveur sur lequel on doit aller. On a son compte Blue Sky, on choisit le flux du rugby avec la modération de telle ou telle personne, et voilà. Et on peut customiser vraiment son utilisation du service. C'est hyper intéressant, je trouve.
Ah, c'est génial. Et moi, je fais le parallèle avec la différence en fait, que tu as entre les deux approches. Alors, on pourrait le faire en fait, hein, avec le protocole qui pub là, et ce que fait.
Complètement.
Ce que fait Mastodon, on pourrait le faire aussi. C'est juste une question de se poser le niveau de réflexion à différents niveaux. Là, Mastodon, on est à un niveau plus bas, au niveau technique, protocole, c'est vraiment le flux d'échange où transitent les données. Et Blue Sky se pose à un niveau au-dessus, c'est vraiment les usages, en fait, les différentes populations utilisateurs et quels sont les besoins, les différentes choses que je vais pouvoir utiliser dans un axe décentralisé. Et ça, c'est vachement bien. Moi, je fais le parallèle avec le monde de la tech dans lequel j'évolue. Ça va être plus des gens, tu vois, côté produit utilisateur qui se sont posés la question, côté Blue Sky, en disant, on va réfléchir vraiment aux usages. Que côté technique avec ce que fait Mastodon, ok, bougez pas, on change les flux réseau protocole et puis voilà, c'est bon, vous avez votre solution. Mmh. Et après, vous en faites ce que vous voulez, démerdez-vous avec ça. Non, c'est un autre niveau de réflexion, c'est hyper intéressant. Ça ouvre énormément de perspectives, hein, tu l'as dit, sur les capacités effectivement à avoir des flux beaucoup plus personnalisés. Alors maîtriser, oui, mais ça tu l'as des deux côtés, mais surtout personnaliser avec, tu vas pouvoir assembler ces différentes choses. Moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Techniquement, c'est pas très, très, très loin, même si c'est des protocoles qui sont encore une fois différents. C'est pas le même protocole dessous entre les deux, mais l'un n'empêcherait pas l'autre. Mais ça reste open source. Hein. Je crois qu'une grande partie de Blue Sky est aussi open source. En tout cas, je sais qu'à l'initiative, au démarrage, c'était quelque chose qui était réfléchi très, très open source. Donc, encore une fois, ça reste assez ouvert à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Je pense qu'il gagne aussi de la street cred, Blue Sky, en parlant de tout ça, par rapport à tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Donc, en espérant que ça leur ramène du monde aussi, en leur disant, grâce à ça, regardez, l'herbe est plus verte chez nous, ça va ramener du monde. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va inverser la tendance quand même. Même si tu en parlais déjà il n'y a pas longtemps, mais Twitter X reste encore the place to be. Si tu veux avoir les infos, contacter les gens, tout ça, tout le monde est là-bas. Peut-être que ça fera encore plus pencher la balance pour faire venir les gens chez eux. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, techniquement et d'un point de vue produit, c'est un super beau move et il y a un vrai besoin là-dessus. Et surtout, ça ramène beaucoup à des usages d'Internet qu'on a connus au début ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un peu plus, comment dire, c'est libéral en fait. M'approche, c'est très, tu réfléchis complètement à ta décentralisation en disant, on va tout décentraliser. Et après, vous avez le choix d'assembler ça comme vous voulez, chacun. Mais on vous fournit toutes les briques pour le faire.
C'est-à-dire que l'approche de Mastodon, et je ne veux pas critiquer Mastodon pour le principe, mais l'approche de Mastodon, c'est vraiment, on veut décentraliser Twitter. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire plein de petits Twitter. Chacun peut avoir son petit Twitter. C'est le but. Là, sur Blue Sky, c'est une vraie réflexion sur ce que ça veut dire que de décentraliser le fonctionnement du service en externalisant les parties les plus clés. Donc, c'est une approche qui est intéressante. Troisième sujet que je voulais évoquer, c'est à nouveau le. Une fois de plus, les États-Unis veulent bannir TikTok. Il y a un projet de loi aux États-Unis qui a acquis Il y a un projet de loi aux États-Unis qui a l'aval des deux parties. au Parlement et qui a reçu...
Qui toque à la porte, en fait.
Pardon ?
Qui toque à la porte, il entend l'arrivée.
Oui, c'est... Oh, qui tic-toque à la porte.
Qui tic-toque à la porte, ouais.
Donc, il y a un projet de loi aux États-Unis qui a l'aval des deux parties et qui a été validé par la Maison-Blanche, qui pourrait être mise en œuvre. Qu'est-ce que c'est que ce projet de loi ? C'est de bannir TikTok, à moins que ByteDance, donc la société mère, ne vende TikTok à une société, on ne va pas dire américaine, mais non chinoise. Quel est le problème ? Le problème, c'est que la société TikTok est donc une propriété de la société ByteDance, qui est chinoise, et il y a des accusations depuis... des années, d'intrusion, de collecte de données, de possibles dangers de la Chine, parce que TikTok est tellement populaire qu'ils ont en fait une fenêtre dans toutes les maisons et tous les smartphones du monde. Et donc, il y a d'une part le risque d'espionnage et d'influence, qui est évidemment problématique, et d'autre part, un narratif qui est plus commun à tous les réseaux sociaux, qui est et ben du coup, ça provoque des problèmes de santé mentale chez les enfants, de dépression, de ceci, etc., qui est un sujet qui revient pas que avec TikTok, mais avec Instagram ou d'autres réseaux sociaux, Twitter, etc. Bon, évidemment, dans ce projet de loi, ils ne parlent que de TikTok, hein. Ils ne vont pas aller proposer d'aller bannir Instagram, par exemple, s'ils ne font pas plus pour sauvegarder la santé mentale des adolescents et des adolescentes en particulier. Mais bon, pour revenir donc à TikTok, il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, et l'une d'entre elles, c'est que le président Donald Trump, qui était, on s'en souvient, l'un des principaux promoteurs de l'idée de bannir TikTok ou de les forcer à vendre, eh bien, a déclaré, suite à ce projet de loi, que ça serait une erreur complète de vendre TikTok, qu'il n'y avait aucun problème avec TikTok et qu'en plus, ça donnerait plus de pouvoir à Zuckerschmuck, comme il l'a appelé, Zuckerberg, ce qui n'est pas faux, hein, et qu'en plus,
mais
vraiment, TikTok, c'était formidable. Bon, pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, il est possible que l'un de ses donateurs principaux ait également des investissements dans ByteDance, accessoirement.
Merde.
Donc, bon, tout à coup, il aime TikTok alors qu'il voulait le faire, ouais. Il voulait forcer ByteDance à vendre il y a quelques années quand il était président. Bon, mettons de côté Donald Trump. Les préoccupations sur TikTok, celles qui sont plus larges sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que beaucoup de gens parlent des réseaux sociaux en général en disant ça a de l'influence. Ça a de l'influence sur les opinions, ça peut faire de la manipulation. On pense bien sûr à ce qui s'est passé en 2016 et avant à Analytica, Cambridge Analytica. On pense à Cambridge Analytica, etc. Et il y a des études qui montrent que ça peut avoir une influence sur la santé mentale, encore une fois, des jeunes filles en particulier, mais pas que. Et puis, quand on parle de TikTok, tout à coup, j'ai l'impression, hein, ces mêmes personnes disent « Oh mais enfin non, pas du tout, c'est du racisme anti-chinois, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, on dit que les enfants deviennent débiles, c'est juste le passe-temps d'une nouvelle génération, c'est les vieux et les politicards font n'importe quoi, tu vois ?» Et il y a cette sorte de deux poids, deux mesures qui me paraît difficile à concilier de mon côté pour la question de... Alors, soit ça a une influence, ça a des effets néfastes, et c'est le cas pour tous, y compris TikTok. Mais bon, dans ce cas, il faudrait légiférer pour tous. Soit ça n'a pas d'influence et donc tout va bien dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on aura du mal à trouver des gens, si on leur dit « Est-ce que tout va bien dans les réseaux sociaux ?» qui vont nous dire « Ah oui, aucun problème. Pas de problème de modération, pas de problème de ci, pas de problème de ça. » Ok, ça c'est une chose. L'autre, et je vais te laisser la parole ensuite, l'autre chose, c'est le danger que représente le Parti communiste chinois. Parce que c'est de ça dont on parle. Et il y a beaucoup de gens qui disent cette peur, cette crainte du Parti communiste chinois, qui aurait des accès à TikTok par l'intermédiaire de ByteDance, elle semble artificielle, voire raciste, Alors, TikTok a été forcé d'externaliser toutes ces données et ils ont des projets, notamment le projet Texas aux États-Unis, qui vise à rendre totalement indépendant le fonctionnement de TikTok de ByteDance. Et on a vu à plusieurs reprises que ça, c'est beau en théorie. En pratique, c'est un peu compliqué et il semble que des données puissent être envoyées à ByteDance et donc accessibles au Parti communiste chinois, même malgré tous les efforts de TikTok et des dirigeants occidentaux de TikTok. Bon, bah, si la boîte appartient à une boîte chinoise, tu ne peux pas quand même garantir à 100% qu'il n'y aura jamais d'ingérence, d'influence. On parle aussi, par exemple, d'algorithme. Est-ce que l'algorithme peut, sur TikTok, recevoir des instructions, enfin, les concepteurs de l'algorithme peuvent recevoir des instructions leur demandant de moins mettre en avant les gens qui sont critiques du Parti communiste ? Est-ce qu'ils pourraient supprimer un petit peu des gens qui parlent des problèmes avec les Ouïghours ? Enfin, 1000 possibilités différentes. Et le vrai problème dans tout ça, à mon sens, je donne mon avis, le vrai problème, c'est que tout ça, c'est un potentiel. C'est comme l'histoire de Huawei et de ses routeurs qui constituent l'infrastructure mobile en Europe. Même si tout ça fonctionne parfaitement bien sans ingérence aujourd'hui, à partir du moment où il y a ce lien qui est fait, eh ben on n'est pas à l'abri, potentiellement, d'une ingérence, manipulation, prise d'information, extraction de données, à un moment. C'est impossible de garantir que ça n'arrivera pas. Alors, c'est impossible de garantir que ça n'arrive pas avec Facebook ou des sociétés occidentales aussi. Mais le fait est que les sociétés occidentales posent, dans ce contexte, moins de problèmes que le Parti communiste, qui contrôle beaucoup plus l'information chez lui et, par certains truchements, peut-être un petit peu ailleurs. Alors, on pourrait dire aussi, oui, mais le Parti communiste, vous êtes gentil, il n'a pas besoin de TikTok pour ça. Il peut acheter des données un petit peu partout. Il en a plein sur Facebook. Il a WeChat, qui est utilisé par énormément de gens en Asie et qui est une société chinoise. Et donc, il n'y a pas cette question de TikTok est populaire ailleurs ou quoi. Bon, tout ça, la question se pose. Mais le problème, le vrai nœud du problème, c'est que le potentiel est impossible à... complètement, enfin, ce potentiel existera toujours tant que TikTok sera une société qui appartient à une société chinoise dans laquelle le Parti communiste a ses entrées. Donc c'est ça le problème. Et on a beau dire, ah oui, mais enfin, ça leur sert à quoi ? Ah oui, mais enfin, quel est le danger ? Regardez, moi, tout va bien. Bah oui, mais le potentiel existe. Et si Cambridge Analytica vous fait peur, si ouais, vous pensez ça. Que... Il n'y a pas de moyen de déconnecter les deux. Soit Cambridge Analytica, aucun problème, et attention, il y a des arguments pour dire ça. Il y a des arguments qui disent... plusieurs études scientifiques qui ont été faites dans les années qui ont suivi ces premiers scandales, qui disent, oui, ben en fait, l'influence des réseaux sociaux, elle n'est pas si grande. En fait... Bien sûr qu'il y a une modération particulière, une manière de présenter les données qui va provoquer une inflammation des discussions et tout ça. Mais en fait, ça ne fait pas changer les gens d'avis. On n'a pas constaté scientifiquement dans nos études que les gens changent d'avis en étant en regardant plus de tel ou de tel contenu. OK, eh ben, si c'est ça votre avis, pas de problème, ni pour Twitter, ni pour Instagram, ni pour rien. Ce n'est pas juste TikTok. Et si vous pensez que ça peut influencer et que Cambridge Analytica était un problème, eh ben, du coup, la connexion entre TikTok et le Parti communiste chinois devrait au minimum vous faire dire « Ah ouais, donc peut-être. » Bon, est-ce que je me laisse emporter, Christophe ?
Un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Mais non, mais le... alors, si je rembobine un petit peu, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté réseau social. Si le problème, c'est le réseau social et le temps sur les écrans et les enfants, en fait, c'est pas TikTok versus les autres. Enfin, les autres ont le même problème. Hein. Tu prends YouTube, les shorts, c'est pareil, même si t'as pas la même audience, mais c'est le même principe. Tu prends Instagram, pareil. Enfin, les problèmes sont partout pareils sur les réseaux sociaux. Si l'argument qui est mis en avant, c'est uniquement cette partie temps d'écran, impact sur les enfants. Donc, celui-là, je le balaye. Pour moi, c'est pas un argument valable dans ce débat. C'est le côté crainte et peur. Effectivement. Et après, ce qui me fait doucement rigoler quand même là-dedans, c'est que si tu regardes de l'autre côté, bah, c'est pareil chez eux. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est pareil, ils ont un énorme contrôle et un protectionnisme national qu'on connaît sur les acteurs occidentaux qui viennent avec leurs applications. Les Facebook, les Instagram, tout ça sont ultra contraints là-bas. Même Google, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été ultra contraints au niveau de moteurs de recherche. Et ils se plient, en fait, à ça pour pouvoir pénétrer sur le marché. Donc, quelque part...
C'est... Alors, Google, joue... spécifiquement, ils sont partis. Hein, donc, c'est...
Oui, ils sont partis, mais ils ont... ça a été un long sujet pendant très longtemps chez eux. Et ils ont
arrêté... Non, et puis Apple se plie complètement, Facebook... Attends, c'est ça. Ils sont Facebook ? Je crois même pas. Mais ceux qui sont présents, ils s'y plient complètement, ils n'ont pas le choix. C'est...
Ben voilà.
Oui.
Donc, en fait, on est en train d'appliquer, dans l'autre sens, ce qu'eux nous font sur...
Alors, pas
sur
tout à fait, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce
Pourquoi
que le problème, c'est alors il y a une, évidemment une ingérence des gouvernements occidentaux dans le fonctionnement des réseaux sociaux, une ingérence. Il y a des extractions d'informations pour les services de police. Et il y a une des exigences de modération, mais c'est pas du tout comme une mesure avec ce qui se passe en Chine. Je veux dire, dire ah bah oui mais nous on fait
non,
pareil.
Non mais sur les réseaux sociaux. Non sur les Bah, je ne mets pas la Chine dans son ensemble, je mets la Chine sur les acteurs des réseaux sociaux qui viennent chez eux, en fait.
Oui,
pas,
mais tu ne peux pas...
Pas sur tout le marché.
Non, mais ce n'est pas la même chose. Tu peux... ce qu'impose la Chine à l'information sur Internet est sans commune mesure avec ce qu'on fait, même en disant, là, ce qu'on dit pour TikTok, ce con, hein, je dis les Occidentaux en parlant. Et d'ailleurs, il est très, très possible que le projet de loi ne se transforme pas en loi et que tout ça s'évapore aussi. Hein. Ce n'est pas du tout dit que ça se produise. Mais ce qu'on dit sur TikTok, là, ce qu'on dit, c'est on ne veut pas que TikTok puisse être contrôlé par le Parti communiste chinois ou en tout cas, ils aient une influence sur le Parti communiste chinois. Alors que ce qu'on dit sur, je ne sais pas, Instagram ou Twitter, c'est il faut bannir les trucs qui sont... Enfin, il faut modérer les trucs qui sont clairement dangereux. Et la différence est dans ce qu'on considère comme dangereux. La Chine a une influence... Enfin, il dicte ce qu'on peut dire, pas juste ce qu'on ne peut pas dire. Tu vois ce que... c'est une différence qui est très importante. Tu ne peux pas critiquer le parti, tu ne peux pas parler des Ouïghours, tu peux pas... Enfin, tu vois, c'est des genres de choses, on est dans un pays totalitaire. Et dire, ah oh ben nous aussi on contrôle parce qu'on fait respecter la loi sur les discours haineux, par exemple, c'est dire, ah oh ben de toute façon, tout est pareil, donc rien n'a d'importance. C'est une équivalence qui, pour moi, est dangereuse parce que ça mène à, bon, bah donc, en gros, on est tous un petit peu pareil, et donc la Chine, c'est comme la France, pour ne pas parler des États-Unis. Et donc, c'est un petit peu pareil, le gouvernement, il contrôle des trucs. Non! Il y a un pays qui est totalitaire, un pays où on peut encore dire ce qu'on veut, à peu de choses près, sauf si c'est l'apologie du crime, tu vois, ou l'apologie de la haine raciale.
Non, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose.
Non,
et dire que c'est la même chose,
en fait,
ça donne des pièces à des extrêmes qui sont dangereux.
C'est la même chose d'un point de vue purement technique et produit, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser les mêmes systèmes pour arriver à des fins différentes parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, effectivement. Mais après, le problème, tu vois, c'est que tu peux aller dans ces deux extrêmes, en fait. Tu peux aller dans ces deux cas différents avec les mêmes moyens. Parce que oui, c'est ça, c'est avoir, tu as une société hébergée dans le pays dans lequel tu veux targeter, les données sont hébergées là-bas, tout est... Mais après, qu'est-ce que tu en fais de tout ça ? Et effectivement, là, on est d'accord là-dessus, on ne fait pas la même chose avec. Hein. La Chine ne va pas contrôler la même chose de la même manière que le fera les États-Unis, par exemple, sur les données. Mais pour autant, ils peuvent en jouer aussi de ça en termes d'argumentaire derrière. C'est-à-dire que bah oui, vous demandez les mêmes choses et tout. Enfin,
oui,
ça peut rentrer dans ce débat-là. Mais oui, clairement, c'est un débat qui est beaucoup plus politique que tech, là, pour le coup, mais qui est hyper intéressant pour autant. Et oui, clairement, la Chine n'a pas été, n'est pas connue pour avoir les meilleures politiques en termes de contrôle des données. Ça, c'est certain, c'est indéniable. Mais après, tu vois, c'est pareil. Tu agites le drapeau de la peur. On sait que la Chine est comme ça. Est-ce qu'ils le font vraiment dans la pratique ? On ne sait pas, ça n'a jamais été avéré. Est-ce qu'on ne peut pas juste augmenter, tu vois, le niveau de contrôle ou de supervision de comment sont exploitées ces données-là derrière sans aller jusqu'à transférer complètement TikTok, leur vendre et le berger aux États-Unis, enfin, j'en sais rien. Mais ce qui se cache derrière tout ça aussi, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large pour moi qui rejoint aussi le sujet de l'IA, c'est tout ce qui est compréhension en fait, de ce qu'on fait de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment elles sont intégrées ? Comment elles sont analysées ? Et derrière, comment les algorithmes ont une influence dessus ? Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant, tu vois, l'explicabilité de tout ça, c'est pas transparent. Il n'y a aucune transparence là-dessus, il n'y a aucune obligation. Il y a beaucoup de boîtes tech qui le font proactivement, en disant, mais regardez ce qu'on fait dessus, qui commencent à le faire, parce qu'ils sentent une petite grande montée, ou parce que politiquement, ils ont envie de le faire, tu vois, l'image qu'ils veulent mettre en avant. Mais ce n'est pas quelque chose qui est répandu et qui est surtout pas contraint d'un point de vue réglementaire. Et je pense que c'est quelque chose qui va commencer à arriver et qu'il faudrait que ça arrive quelque part, de manière ou d'une autre.
Il y a l'AI Act qui est lui aussi en Europe, qui est en train d'être cuisiné et qui va pas tarder à arriver. D'ailleurs, il y a eu des progrès avec des accords en ce sens il n'y a pas longtemps, donc on en reparlera à un moment.
Parce que sous couvert de l'IA, tu fais passer beaucoup de choses hein, qui sont en fait des traitements manuels de données derrière et des gens qui regardent et qui manipulent les données. Hein. Tu as aussi beaucoup de choses. Donc, ajouter la transparence là-dessus, ça sera déjà une vraie bonne première étape. Mais c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet. Pour revenir sur TikTok, il ne faut pas oublier que c'est une allée d'élection et que tous les hommes et femmes politiques ont tout intérêt à aller atteindre leur public potentiel sur TikTok. D'ailleurs, on peut imaginer que le contenu MAGA de Trump est assez populaire sur TikTok, donc il n'a pas forcément envie que ça disparaisse. Mais je dis Trump, pour le coup, c'est un petit peu le cas pour tous les hommes et les femmes politiques. La campagne Biden-Harris est également présente sur TikTok, par exemple. Donc, bon, peut-être qu'ils agitent un peu les
alors, il ne faut pas contrôler les gens, sauf quand ça peut nous servir.
C'est ça.
C'est un peu ça, quand même.
Il y a aussi, je mettrai dans, dans la newsletter tous ces liens-là. J'en mettrai aussi un sur un papier hyper intéressant sur des influenceurs sur différents réseaux qui font la promotion de stores chinois qui vendent des faux, mais de manière hyper accélérée. Enfin, c'est très, très intéressant. Je vous mettrai le lien dans la newsletter. Et si vous appréciez l'émission, vous savez que vous pouvez la soutenir. Là, il n'y a aucune influence ni du Parti communiste chinois, ni du Parlement américain, ni de qui que ce soit d'autre dans les sphères politiques. C'est uniquement Patrick qui décide. Patrick, grâce à vous, si vous souhaitez, si vous voulez faire en sorte que Patrick reste indépendant, qu'il ne soit pas invité sur CNews, qu'il n'aille pas chez, je sais pas, Blast ou est-ce que je vais mettre les deux en équivalence ? C'est peut-être un petit peu dangereux là quand même. Non, on va se contenter du Parlement américain, du Parti communiste chinois, et même que Thierry Breton ne me suit pas sur Twitter. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien sur Patreon, une indépendance totale où on rigole, mais je n'ai aucun produit, par exemple, qui me sont envoyés par des marques dont je parle. Je ne reçois pas d'iPhone, je ne reçois pas de téléphone Android, je ne reçois pas de licence Windows gratuite. Tout ça, je le paye grâce à vous. Et donc, quand je parle d'indépendante, j'en plaisante un petit peu, mais c'est vrai. Et c'est quelque chose qui est important. Donc, patreon.com/rdvtech pour soutenir ce que je fais. Et pour soutenir cette alchimie un petit peu étrange entre entertainment et information. Bon, pas d'influence, il y a un petit peu d'anglicisme quand même. Entertainment et information, vous savez que c'est quelque chose d'important parce que j'ai appris au cours des années que parler de sujets bien en connaissance de cause relative et pouvoir bien les expliquer, c'était important. Mais si ça n'est pas amusant, pas amusant, c'est pas le bon terme, mais si vous passez pas un bon moment en m'écoutant, bah vous allez arrêter de m'écouter et donc vous allez arrêter d'être informé. Et je crois, vous me le direz, mais je crois que j'arrive à avoir cet équilibre vraiment compliqué. Je fais pas le clown, je ne bêtifie pas l'information, je fais pas du clickbait ridicule et tout ça fonctionne ensemble et c'est entertaining. Et c'est informatif. Si vous appréciez ça, c'est une offre qui est, je crois, relativement unique dans la création de contenu. C'est des sujets hyper sérieux, traités sérieusement, mais avec légèreté, autant qu'on peut. Et cette proposition, elle est précieuse, je crois. Enfin, moi, je trouve qu'elle est précieuse parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais si vous pensez que c'est pas trop mal, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir ce type de contenu. patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Merci à tous ceux et à toutes celles qui vont penser à le faire aujourd'hui, là, tout de suite. Vous êtes dans le métro, vous lancez la page web sur votre téléphone et vous pouvez le faire immédiatement. J'espère juste que la connexion ne coupera pas quand vous serez au moment de mettre votre numéro de carte bleue. Là, ça serait vraiment un drame. Mais c'est pas grave, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, là vous dites « Ah oui, merde, non, le truc, patreon.com/rdvtech, faut que je le fasse, ok, tout de suite. » Très bien, merci à tous, merci à toutes, et on continue.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec le reste, je suis actuel. Tu vois, je parlais des intros tout à l'heure. L'intro, oui. C'est du métier. Je l'ai fait sans script, sans rien. Les promos la Patreon plus, aussi, hein. C'est du métier.
C'est ça. Mais surtout, il faut penser à acheter de la levure. Donc, soutenez Patrick pour qu'il puisse acheter de la levure. C'est surtout ça. Le message important qu'il faut retenir de
c'est
ce podcast.
C'est ça qui est important. Oh, j'ai oublié de dire un truc sur TikTok. Complètement oublié. Il est là pourtant, dans mes notes. Un truc important. Tac, 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 il est où ? Kotick ! Eh oui ! L'ancien président, eh oui, tu savais ça ? Il semblerait, selon certaines sources, qu'il considérerait l'idée de faire une offre de rachat pour TikTok, en partenariat peut-être avec Sam Altman. Alors, on ne sait pas s'il a dit « j'aimerais bien faire ça avec Sam Altman », ou si c'est vraiment, il y a eu des discussions et tout. Mais donc, Bobby Kotick pourrait racheter TikTok. J'y crois pas trop, j'avoue que c'est un peu… Mais why not, hein ?
C'est un peu le bingo buzzword, quoi. Bobby Kotick qui a TikTok avec Sam Altman.
Bobby Kotick, TikTok, okay. IA, Sam Altman. Ok, d'accord, très bien,
c'est
on bon. A gagné.
Tel combo, c'est parfait.
Merci, Jerry, pour ce rappel dans la chatroom. Bon, je voudrais vous faire un petit journal de l'IA. Et on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pas forcément que des choses importantes. Deux sujets que je vais évacuer rapidement. D'abord... Le petit combat entre Elon Musk et OpenAI est un petit peu résolu. Enfin, résolu, on va dire. Vous savez que Elon Musk intente un procès à Sam Altman et à OpenAI en disant « Moi, je vous ai donné de l'argent avec certaines promesses d'OpenAI qui bénéficieraient au bien de l'humanité. Vous avez renié ces promesses et donc, procès, et donc, on ne sait pas, est-ce qu'il veut son argent, est-ce qu'il veut… » Bon. Eh bien, OpenAI a répondu à ce procès en disant « Bon, d'une part, il n'y avait pas d'accord, il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a pas de document de fondement, il n'y a rien du tout. Donc, voilà, il n'y a pas de contrat. » D'autre part, tu as donné 50 millions. Alors, c'est bien 50 millions, c'est gentil. Mais toi-même, tu étais d'accord avec le fait qu'il fallait au minimum 1 milliard pour faire quelque chose. Donc, avec tes 50 millions, tu es bien gentil, mais tu étais bien conscient qu'il fallait plus d'argent. D'autre part, on a des emails qui montrent que toi-même, tu étais d'accord avec l'idée qu'il fallait arrêter d'open sourcer notre travail à un moment et qu'il fallait financer ça autrement. Et enfin, dernière chose, quand on s'est dit on doit effectivement créer une entité commerciale ou semi-commerciale, ce que tu voulais, toi, Elon Musk, c'était fusionner OpenAI avec Tesla, devenir le CEO de OpenAI et avoir une place au board. Et donc, tu voulais le contrôle total sur OpenAI. Et t'es parti quand on t'a dit non. Donc, et on a des documents pour prouver tout ça. Donc, voilà, je pense que ce procès ridicule d'Elon Musk est confirmé comme étant hyper ridicule et n'ira nulle part. C'est encore, alors on le disait la semaine dernière, un caca nerveux plus qu'autre chose.
Mais j'adore l'approche hyper factuelle d'OpenAI. C'est vraiment... Alors, voilà. Bon, maintenant, tu dis quoi ? Ça va être marrant de voir sa réaction.
On verra.
Est-ce que tu crois qu'il y a le caprice de l'enfant gâté ? Mais non.
Je pense que ça ne serait pas très surprenant de la part de Musk. Une autre chose sur laquelle on va passer assez vite aussi, OpenAI a réintégré Sam Altman au board. Enquête indépendante supervisé par OpenAI, a déterminé qu'il n'y avait aucun problème. Vous savez, c'est suite à, au renvoi de Sam Altman par le board d'OpenAI qui a provoqué toute l'histoire il y a quelques semaines. L'enquête indépendante a montré qu'il n'y avait aucun danger dans les intentions de Sam Altman pour le bon fonctionnement d'OpenAI, donc tout va bien. Voilà, tout est terminé, tout va bien. On n'a pas à commenter forcément plus que ça. Plus intéressant, enfin, ce n'est pas très surprenant, on va dire, et puis j'aurais été surpris que ça soit une autre conclusion. Plus intéressant que ça, ce qui se passe dans le domaine de l'IA, deux choses que je voulais évoquer, il y a des choses nouvelles tout le temps, hein, mais deux choses que je voulais évoquer, c'était d'une part, une société qui fait de la vidéo par IA qui a ajouté les effets sonores. C'est un truc qui s'appelle Pika, qui est relaté par Nick Floats, Nick Saint-Pierre, sur Twitter. Comme quoi, on l'utilise encore beaucoup, Twitter. En fait, il vous crée des vidéos et il vous crée des effets sonores. Je vais essayer de vous en donner quelques-uns, là. Voilà, c'est les effets sonores créés par IA pour illustrer vos propos. Alors, il y a des oiseaux, des voitures.
Donc ça, c'est des effets du son en fonction de la vidéo, de ce qu'il analyse la vidéo.
C'est ça. Il analyse la vidéo et il crée du son en plus. C'est impressionnant, ça continue à progresser. Il y a aussi un progrès chez Midjourney qui peut désormais, qui a un facteur de cohérence de personnage. C'est-à-dire que l'un des gros problèmes des générateurs d'IA, d'images par IA, c'est qu'on va lui demander de créer un personnage selon un certain prompt, et il va créer un personnage qui correspond au prompt, mais qui va être complètement différent à chaque fois. Donc, si on dit, un homme, je ne sais pas du tout pourquoi je pense au rugby en ce moment, mais on va lui dire un homme qui joue au rugby sur un terrain en Bretagne, et il va créer un truc qui correspond, mais ça peut être une personne complètement différente à chaque fois. Et bien là, c'est peut-être... C'est peut-être parce que tu me fais penser à Stéphane. Je pense que c'est pour ça que je vois ta tête et je me dis rugby. Je pense à Tchic-Tchac. Je crois que c'est ça.
D'accord.
Je comprends. Je comprends.
Non, mais il y a des matchs en ce moment.
Bah aussi. Et donc on a un paramètre dans qui est le paramètre CRF dans Midjourney pour créer un personnage qui ressemble d'une image à l'autre. Et on peut lui fournir une image et ce genre de choses. Et donc, on peut avoir des personnages qui se ressemblent. Donc, ça a énormément d'utilité pour plein de choses. Un article intéressant également de Simon Wilson qui dit qu'on a désormais plusieurs modèles qui ont atteint les performances de GPT-4. On a Google Gemini 1.5, le modèle large de Mistral, on a Claude 3 Opus, et Inflection 2.5, bref, tous ces modèles qui sont arrivés ces deux dernières semaines, trois dernières semaines, sont aussi efficaces que GPT-4, donc le progrès continue. À côté de ça, on a des études qui montrent que les modèles continuent à produire du contenu copyrighté, on a des études qui montrent que les modèles donnent de la désinformation. Une étude notamment qui montre que dans 41% des tests, des modèles d'images comme Midjourney, Dream Studio, ChatGPT+, etc., créent des données avec de la désinformation sur les élections, notamment, intéressant à noter. Et surtout, un truc sur lequel je voulais m'arrêter une seconde, c'est le fait qu'il y a une série de chercheurs qui ont signé une lettre ouverte aux grands de l'IA pour les supplier de leur donner accès au modèle pour la recherche. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec la législation au niveau européen et l'AI Act qui arrive. Les chercheurs disent « On a eu énormément de problèmes avec nos recherches sur la modération, sur les réseaux sociaux ». Ne faisons pas la même erreur. Là, les conditions d'utilisation de ces modèles disent si vous cherchez à hacker, à jailbreaker notre modèle, c'est contre les conditions d'utilisation, donc on peut vous bloquer. Eh bien, la recherche, c'est ça. C'est essayer de hacker, essayer de jailbreaker, essayer de voir ce qui ne peut pas aller. Et on tombe sous le coup de vos règles et on peut se faire bannir si on essaye de faire de la recherche. Donc, la recherche en souffre et la recherche est extrêmement importante dans l'IA. Donc, espérons qu'ils répondront à cette demande. Je continue parce qu'il y a encore deux sujets intéressants sur lesquels je veux qu'on passe un tout petit peu plus de temps. D'abord, des articles sont en train de, d'arriver avec des estimations selon lesquelles les centres de données ont du mal à suivre leurs promesses sur la décarbonisation en raison en particulier des demandes de l'IA. Donc, c'est un truc dont on parle parfois et on se disait on n'est pas trop trop sûr, est-ce que oui, est-ce que non ? Bon, y a un article dans le Washington Post qui dit ça complique les choses. Ils ne disent pas c'est complètement dramatique, mais ils disent qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire tourner tout ça. Et donc, on est à la limite. Et donc, ils prennent l'énergie où ils peuvent. Et donc, ce n'est pas forcément que du verre. Donc, bon, peut-être que ça pourrait être
résolu. Sans surprise. Hein.
Sans surprise.
La puissance de calcul qui est demandée pour faire ça, c'est assez ouf. Mais ça ouvre d'autres leviers pour optimiser la performance, notamment du hardware pour les...
Ça arrive aussi, hein, on est au début, mais bon, ouais. On dit ça, bon. Y a peut-être des urgences. La Floride a mis en examen deux adolescents qui avaient créé des deepfakes pornographiques d'une camarade de classe. Et c'est la première application d'une loi qui permet cela, donc c'est à noter aussi. Et puis, Google est en train d'updater son algorithme pour limiter la visibilité des contenus générés par IA et des contenus spam générés par IA. Donc tout ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai mis tout ça ensemble, c'est que on découvre un petit peu tous les fonctionnements et on essaye de s'adapter et ça va prendre un petit moment, c'est évident. On parlait de deepfake tout à l'heure, il y a un avatar de Marilyn Monroe qui a été présenté à South by Southwest, je crois. Oui, c'est ça, South by Southwest. C'est hyper intéressant parce que, alors, elle n'est pas complètement incroyable, cette Marilyn Monroe virtuelle qui est vendue comme une version numérique, numérico-biologique de Marilyn Monroe, mais là où c'est intéressant,
C'est un peu cringe.
C'est un peu cringe, on est d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une nouvelle étape dans l'idée que l'IA pourra permettre la conservation de personnes qui sont vivantes aujourd'hui, qui sont mortes depuis un moment. On avait vu un exemple avec des faux virtuels de Elvis Presley,
c'était quoi les clones, la fin de les
des avatars avec des lasers, des illusions d'optique,
des hologrammes,
merci. Des hologrammes de Elvis Presley, etc. Donc là, c'est une étape, c'est Biological AI, donc c'est une sorte de AI de Marilyn Monroe, mais ça continue dans cette idée. Il y a aussi en Inde, pendant la campagne, plusieurs candidats et partis qui ont utilisé l'IA pour faire différentes choses, des choses comme il crée une chanson avec la voix d'un chanteur connu qui dit des choses différentes qui pour mettre en avant, en l'occurrence, c'était Modi. Il y avait aussi des trucs pour critiquer un petit peu Modi, fait par IA avec la voix de Modi et son visage, etc. Mais le plus intéressant dans le domaine de l'utilisation de l'IA pour les élections, c'est la campagne de Jason Palmer, qui est un candidat aux primaires démocrate contre Joe Biden, qu'il a battu au caucus de l'American Samoa, qui est une des petites zones qui votent pour les primaires. Et il a réussi à le battre alors qu'il est relativement peu connu, mais il a communiqué par IA avec des SMS, des emails et même un avatar IA qu'il appelle Jason Palmer IA. Et c'est un type qui est un technologiste, mais qui est très ouvert sur l'IA et qui est, je veux dire, qui dit clairement dans ses communications qu'il communique par IA. Donc, ce n'est pas qu'il essaye de cacher les choses, que c'est des deepfakes, que c'est de la critique acerbe de Biden.
Il ne te manipule pas.
Il ne te manipule pas, voilà. Il est très clair. Mais par contre, ce que ça lui a permis de faire, c'est avec 5 000 euros seulement de lancer cette campagne dans l'American Samoa. Il dit, lui, si j'avais des millions, je pourrais complètement m'attaquer au marché, entre guillemets, du Colorado, du Vermont.
Je contrôle le monde.
beaucoup plus efficace. Alors, des millions, ça peut paraître beaucoup, mais il parle de quelques millions. C'est beaucoup moins que ce que ça coûte de communiquer dans ces campagnes politiques, en particulier aux États-Unis, où les dépenses ne sont pas limitées et contrôlées, etc. Il dit aussi que il était très clair et son IA, son modèle d'IA, il était identifié. Il lui a coûté 25 000 $ à créer. Mais donc voilà, cette campagne dans son ensemble lui a coûté 5 000 € de communication. Et c'est rien du tout pour avoir un caucus. Et il a battu Biden. Bon, peut-être qu'il y avait des circonstances particulières en Américain de Samoa, etc. Mais
non, mais c'est un bon outil de productivité. Hein. Ça explique bien l'impact que ça peut avoir. Moi, je trouve que c'est un bon retour d'expérience, ce partage-là. Le fait que ce soit transparent en plus là-dessus, pour dire, ben, regardez, avec des bons outils, on impacte beaucoup plus, on est plus efficace, ça marche bien. Et puis on arrive à nos fins, au final. Ça fait peur aussi. Hein, mais...
C'est ça, lui, mais il a l'air plutôt sympa, donc ça va.
Ouais, mais... c'est ça. Et t'imagines, il est entre les mains de quelqu'un malveillant, bah oui.
Mon Dieu. Je mettrai l'article dans les notes de l'émission aussi. Et puis, le deuxième truc vraiment intéressant dont je voulais parler dans ce journal de l'IA, c'est une étude, là encore, sur le prompt engineering. Tu te souviens de ce que c'est que le prompt engineering ?
Oui, je connais très bien. C'est les métiers qui consistent à savoir écrire des prompts pour les LLM. Pour
exactement.
Les modèles d'IA qu'on connaît.
Pour les modèles de langage, les générateurs d'IA d'images, etc. Donc, depuis
l'homme,
deux ans...
L'homme qui murmure à l'oreille des...
oui, qui murmure à l'oreille des modèles. Donc, depuis un an et demi, ce métier, cette activité est de plus en plus mise en avant. Et les prompt engineers, il y a même des gens qui se font embaucher en tant que prompt engineers, etc. Eh bien, il y a une étude qui montre que, en fait, le meilleur moyen d'écrire un prompt... pas forcément de demander à un prompt engineer, c'est de demander, tu ne devineras jamais à qui, à l'IA elle-même.
À l'IA elle-même.
L'ironie,
comment tu t'écris toi-même ?
Ouais. L'ironie est tellement énorme que j'ai du mal à ne pas m'étouffer dessus, tu sais. Les gens qui sont censés écrire les prompts pour demander aux IA se font prendre leur boulot par l'IA. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas ? Parce que évidemment chaque IA, chaque modèle est différent et très spécifique, et la manière dont les chercheurs ont testé les choses, c'est qu'ils ont fait des tests avec les IA, des tests auto-évalués par les IA pour créer des prompts qui fonctionnent, et ils ont obtenu des trucs hyper bizarres auxquels un prompt engineer franchement ne penserait jamais. Par exemple, dans un des cas, pour résoudre des problèmes de maths, le meilleur prompt était « Command, we need you to plot a course through this turbulence and locate the source of the anomaly. Use all available data and your expertise to guide us through this challenging situation. » Qui est en fait une sorte de prompt à la Captain Kirk, quoi.
C'est un catchphrase de Star Trek. C'est pas
de
mal.
Star Trek. Et on ne sait pas très bien pourquoi, parce que dans les 1 et les 0 qui se permutent dans le modèle, ben, cet énoncé donnait de meilleurs résultats que d'autres. Et jamais on n'aurait trouvé de cette idée, quoi. Et ce qu'ils disent, l'article est intéressant, il sera aussi dans les newsletters, ils disent qu'on a tendance à anthropomorphiser ces modèles, alors que ce n'est pas du tout. C'est juste, ils ne parlent pas anglais. Il fait juste des maths, quoi. Il fait des maths avec des 1 et des 0. Et il ne parle pas anglais, ce n'est pas une personne. Donc, trouver le meilleur moyen, c'est super bizarre. Ils arrondissent un peu les angles. Ils disent, il faudra quand même des gens pour savoir au mieux comment le modèle marche et comment le guider, comment ça. Mais ce ne sera pas des gens qui vont écrire des prompts spécifiquement. Mais il faudra des experts. Mais comme des experts partout, les prompt engineers, ce n'est pas forcément la meilleure solution.
Ah, moi, ça me fait passer une époque où tu mettais en avant les skills aussi des gens qui savaient parler à Google, tu vois, mettre les bonnes questions au moteur de recherche pour trouver les bonnes réponses. Bah, c'est ça, c'est un peu l'évolution de ça. Mais juste un pas de côté sur la partie maths, parce que j'ai vu pas mal d'articles et des vidéos aussi hyper intéressantes là-dessus. C'est qu'en fait, les LLM, ils ne savent pas raisonner niveau mathématique. Ils ne savent que détecter ça en termes de mots et faire le parallèle avec d'autres phrases. Donc en fait, ils vont, sur la partie maths et les résolutions d'équations, ils vont te donner des choses qui sont pas forcément justes, mais qui sont cohérent dans une réponse qui pourrait être faite dans un problème à peu près similaire. Mais au niveau des calculs ou comme ça, ils sont pas forcément bons. J'avais vu un truc hyper intéressant sur des capacités à raisonner, où il évaluait ça, et en fonction des prompts, effectivement, que tu posais, comment tu posais ta phrase ou tu as agencé les mots.
Il donne des
voilà, c'est ça. C'est-à-dire la réponse, elle est dans le langage correct, ça correspond bien au contexte du problème. Par contre, le résultat, il est complètement faux. Le raisonnement n'est vraiment pas là. Le résultat est faux.
Alors, c'est hyper intéressant. Ça commence à évoluer. Hein. Tu sais qu'on a des modèles qui ont gagné des Olympiades de maths il n'y a pas si longtemps, on en parlait dans l'émission, qui commencent à avoir autant des réponses aussi bonnes que des médaillés d'or d'Olympiades de maths. Tu vois, donc, on est vraiment au début et c'est en train d'évoluer.
Quoi. Bien sûr, énormément d'améliorations là-dessus, mais oui. Mais oui, prompt engineer, oui. Évidemment, c'est du marketing. Hein. C'est du marketing, évidemment. Tout le monde n'était pas forcément dessus.
Le nouveau job, l'intitulé qui est plus juste, c'est Large Language Model Operations. Tu vois,
qui
s'occupe des LLMO. C'est un LLMO. Alors, Large Language Model Operations Manager ou un truc comme ça.
LLM Ops, je fais le parallèle parce que j'ai vécu le monde où la data science et le machine learning est arrivé dans le monde de la tech, et on avait pas mal de métiers qui sont créés comme ça autour de la data ops, du ML ops, machine learning ops, et c'était tout ce qui était les gens comme ça qui facilitaient le travail soit de la donnée, donc tout ce qui était outillage, automatisation, pareil sur tout ce qui était entraînement, hébergement de modèles sur la partie ML ops. Donc LLM ops, pour moi ça fait complètement du sens, c'est vraiment les gens qui vont dire ok, maintenant comment on va au mieux exploiter l'usage des large les LLM, soit en les hébergeant chez nous, soit en exploitant des plateformes hébergées, etc. Et comment intégrer ça dans notre écosystème d'applications ou notre SI proprement parlé. Donc ça, c'est plutôt bien comme métier, je pense, au-delà du prompt engineer. Et c'est pas juste on s'en sert et puis voilà, tu tapes des phrases, tu vas l'intégrer, faire appel aux API, sécuriser le truc, maîtriser tes données, tu vas plus large que juste cette partie-là.
Allez, on conclut avec quelques news rapides. D'abord, Microsoft dit au revoir au Android Subsystem dans Windows 11. Petit ange parti trop tôt, quoi.
Pourquoi je suis hyper déçu. C'était trop bien, ce truc-là.
Le 5 mars 2025, on ne pourra plus lancer d'app nativement. Il y a plein de trucs qui permettent de le faire par ailleurs. Bon, il faut avouer que... Alors, ça marchait, mais pas très utilisé, il semble. Mais quand même, ils l'ont lancé il y a genre, j'ai l'impression, l'année dernière. Bon, c'était il y a un peu plus longtemps, mais...
Il y a 2 ans, crois que c'était la release publique qui était à 2 ans avec une phase de bêta un peu moins de 1 an. C'était hyper rapide. Ouais. C'est dommage.
Je comprends pas pourquoi Microsoft, pourquoi petit ange parti trop tôt.
Ils ont pas réussi à sortir des sous de ce truc-là, je pense. Hein. C'est surtout
ça. Sans doute, oui. Et ils se concentrent sur ce qui marche plutôt que c'est ce qui est sympa. Bon, les gens utiliseront BlueStack, ça va. Linux a atteint 4% de part de marché d'OS. Vous allez vous dire, 4% c'est rien du tout, peut-être, mais 4% c'est mieux que 3%. Ce qui était le pourcentage il y a un an à peine. Donc 1% en un an, alors qu'il avait fallu 30 ans pour atteindre 3%, c'est une belle augmentation. Et l'article est intéressant sur Linuxiac, qui dit que ça progresse depuis que les développeurs se sont mis à faire des UI vraiment pensées pour les utilisateurs.
Bien donc, c'est étonnant ça. Ouais, sur la partie desktop, ça c'est la croissance.
Bien sûr,
ça, c'est
bien sûr. Oui.
Alors que tous les autres OS... Je continue à maturer.
J'aime à rappeler parfois à quel point Linux a gagné la guerre des OS. Parce qu'on dit souvent « Ah, Linux a perdu, regarde, Microsoft est toujours là. » Mais Linux, c'est quoi ? Linux, c'est tous les serveurs du monde, c'est tous les Android du monde. Alors oui, c'est pas Linux même, mais c'est tous les Android du monde. Linux, c'est partout. Il n'y a que Windows qui n'est pas Linux. Il n'y a que ça. Donc on ne peut pas dire que Linux n'a pas gagné. Bon, sur le desktop...
macOS, c'est pas tout à fait Linux, c'est un Unix.
Non, c'était tiré de Next, qui était un petit peu Unix. Ok. C'est vrai.
Non, mais il y en a partout, les télé embarqués, les appareils connectés, tout ça, machin, c'était Linux embarqué partout. Ça. Tu l'as partout.
Tout est Linux. C'est quand c'est pas Linux. Mais
les voitures.
Oui.
À une époque, j'avais une voiture, j'avais une BM à l'époque, c'était un Windows embarqué qu'il y avait dedans. Ça marchait pas bien.
Tu sais, alors oui, ça, je veux bien croire que ça marchait pas bien. Ceci dit, même Windows, franchement, aujourd'hui, il marche beaucoup mieux. J'y pensais, je sais plus quand j'ai eu le dernier Blue Screen of Death. Alors, je devrais pas dire ça parce que là, si le podcast s'interrompt maintenant, vous savez pourquoi. Tout à coup, ma machine plante.
Tu sais pourquoi ?
Mais ça plante plus. Ça plante plus jamais, Windows. Ça marche super bien.
Alors, Ça, c'est hyper intéressant et on peut en parler si tu veux prendre un petit peu de temps. C'est qu'il y a une vraie différence de philosophie entre le noyau de Windows et le noyau de Linux. Aujourd'hui, Linux, il est énormément, c'est très monolithique. Et c'est l'avantage et c'est ce qui a fait que Linux marche, c'est qu'aujourd'hui, tu embarques dans ton noyau tout, y compris tout ce qui est driver, tout ce qui est pilote et tout qui sont embarqués dedans. C'est pour ça qu'à une époque, c'était la blague, ça l'est encore un peu beaucoup, c'est que tu dois recompiler ton noyau Linux à chaque fois que tu as un nouveau périphérique qui arrive ou que tu as un truc USB qui ne marchait pas, etc. C'est la blague ne vient pas de nulle part, c'est que ça a vraiment été le cas, c'est dans la philosophie. Windows, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le noyau il est modulaire et tu viens plugger des drivers dessus qui viennent du coup faire le lien entre ton système d'exploitation et ton hardware. C'est-à-dire que comment tu vas exploiter ton hardware avec ton logiciel, c'était ça. Et en fait, les deux sont en train aujourd'hui de se rapprocher, c'est-à-dire que Linux est de plus en plus modularisé, donc ils ont extrait ces parties-là, et Microsoft est en train de voir, c'est assez récent ça, est en train de voir pour réintégrer des choses dans le noyau, donc ils vont faire grossir un peu le noyau Windows pour gagner en fiabilité, stabilité et aussi en performance derrière. Mmh. Optimisation, rapidité d'exécution, autonomie et consommation énergétique derrière. Donc tu vois, ils sont en train de se regrouper. Donc les philosophies sont en train de se rapprocher, mais oui, à la base, fondamentalement, ce sont deux philosophies complètement opposées entre les deux.
Mais par contre, voilà. Je pense que tu seras d'accord que Windows fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, par exemple, ou 20 ans, j'en parle même pas. Mais
ouais, mais ils ont mis. Oui, en fait, ils arrivent à beaucoup mieux isoler les problèmes de drivers, notamment. Donc, la plupart du temps, quand tu as les Blue Screen of Death, c'est que tu as des drivers qui ne marchent pas bien ou du hardware qui ne marche pas bien. Et aujourd'hui, quand tu as des hardware qui plantent, ils arrivent à l'isoler suffisamment bien. Et tu l'as sûrement déjà eu, la carte graphique qui redémarre, tu vois.
Complètement.
L'écran qui redémarre.
Oui. Et c'est le driver de la carte graphique qui a planté.
Et à une époque, c'était écran bleu direct. Hein, c'était fini. Ouais. Hein. tu redémarres.
Le Bitcoin a surpassé les 69 000 $. Donc ça y est, on est revenu au plus haut de l'histoire du Bitcoin pour toutes les raisons dont on a parlé à différentes reprises. Le halving notamment, mais pas que. Et la conjoncture législative qui est favorable aux crypto-monnaies ou qui semble favorable aux crypto-monnaies. Donc voilà, bon, ça y est. Selon Ming-Chi Kuo, le seul écran pliable dans les cartons pour Apple, alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2027 probablement, et ça serait un Mac avec écran pliable, un Mac avec un écran de 20,3 pouces. J'aurais curieux de voir dans quel sens il se plie, tu sais. Est-ce que c'est genre, tu le déplies, il y a un écran derrière, et puis tu le déplies pour agrandir ton... J'aurais très très curieux. Bon, c'est 2027, c'est pas pour tout de suite.
Ça me paraît bizarre comme usage quand même, hein. Mais
Alors oui, mais je sais pas, ça dépend dans quel sens quoi. C'est vraiment le sens du dépliage qui fait que. Parce que tu vois, s'il est un écran classique que tu peux ouvrir genre sur la droite ou la gauche ou sur les ou qui se déroule, j'en sais rien. Bon,
genre les fenêtres, t'ouvres les volets quoi.
Peut-être. Ouais. Oui, mais si t'ouvres les volets, ça veut dire qu'il serait plié sur l'écran de base et qu'il est pas. Il faudrait que ça soit en dessous, donc que ça soit sur le clapet pour que tu ouvres genre dans l'autre sens comme un papillon. Bon, je sais pas.
Ouais, ça me paraît bizarre.
Et enfin, la France a commandé un supercalculateur IA, un supercalculateur pour l'IA militaire, pour des objectifs d'indépendance, évidemment. C'est intéressant, il y a un article qui est un petit peu lié à ça, sur Numérama également, que je mettrai dans la newsletter, dans lequel il parle à l'ancien chef de la cyberdéfense militaire, le vice-amiral Arnaud Coustillère, pour parler de désinformation et des dangers de la désinformation. L'article lui-même est très intéressant, mais ça met en avant les actions notamment de Moscou. Je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît quand je parle de ça, mais c'est un fait. On a par exemple un article intéressant qui n'est pas celui-ci, mais qui montre que Moscou a tenté, en tout cas, d'amplifier la psychose sur les punaises de lit. Tu te souviens, il y a quelques mois, c'était là. C'était. Alors, c'est le Parisien, pardon.
Faisait le bruit partout.
C'est le Parisien qui faisait état de cette chose-là. Et ça montre bien à quel point. L'influence ou la désinformation de Moscou, c'est pas juste politique. C'est dès qu'il y a un truc pour cliver ou pour faire paniquer ou pour faire... Tu vois, ils vont y aller et ils vont essayer d'amplifier. Alors là, en l'occurrence, sur les punaises de lit, c'était
Mais pourquoi on sait pourquoi ils ont mis ça Non, c'est juste pour faire plus de bruit, c'est pour noyer notre truc à côté.
Dès que tu peux foutre la merde. Ah, le gouvernement ne fait rien. Ah, c'est la faute de machin. Ah, c'est la panique. Ah, regarde, le monde est horrible. Ah, regarde, la France est et c'est plus le pays que c'était. Ou tu vois ce genre de. Dès que tu peux foutre la merde, d'évaluer les modèles des démocraties occidentales. Si tu fais baisser la sérénité, si tu augmentes la division, les engueulades, eh ben, par effet de levier, chez toi, ils ont moins le temps de se préoccuper de toi. Et puis, tu as l'air d'être mieux. Franchement, la vie n'est pas rose à Moscou et en Russie. Même quand j'y suis allé les dernières fois, ce n'était pas génial. Et c'était il y a un moment. Mais l'idée que tu vas disrupter... Alors évidemment, au niveau politique, c'est le plus important, mais ça va jusqu'à des trucs qui ne sont pas, j'allais dire, des conneries comme les punaises de lit. Ce n'est pas des conneries, évidemment, qu'il y avait clairement un vrai problème. Mais l'idée est d'amplifier ça et de le rendre déraisonnable, de faire paniquer. Et donc cet article sur la menace existentielle qui est la désinformation est hyper intéressant dans ce contexte. Je vous laisserai aller le lire. Il y a eu d'ailleurs des cyberattaques sur des ministères français, sur l'AFP, etc.
Ouais, ça c'est pas mal. Enfin, c'est assez significatif, hein. Ouais. comme ampleur pour attaque, ouais. Et puis bien ciblé, ouais. Mm-hmm.
Bon, c'est pas tout super top la Russie en ce moment. Et puis un autre article que je mettrai dans la newsletter. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la newsletter cette semaine. Je vous recommande d'aller vous y abonner. C'est un article sur la manière dont on considère l'IA et l'impact que ça va avoir sur la société et qui le compare à la révolution industrielle ou même au feu. Le titre de l'article, c'est « Something like fire ». Something like fire, si vous voulez le bon accent, et qui compare en fait à la révolution industrielle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il dit la révolution industrielle, ça a pris des siècles. L'IA, c'est en train de prendre quelques années, peut-être une décennie ou un petit peu plus, mais et bien sûr, il y aura une limite et ça ne va pas forcément transformer, on ne sait pas demain, la GI. Mais l'impact est intéressant parce qu'on concentre en quelques années un truc qui a pris des siècles par le passé. Alors, on pourrait comparer ça à l'Internet. Finalement, l'Internet...
Mais tout a accéléré, en fait, si je regarde.
Ça a pris... Moi, je dirais que l'Internet, des débuts des navigateurs, Mosaïque, en début 90, jusqu'à ce qu'on puisse dire que ça a eu un vrai impact jusqu'à la prochaine révolution qui était les mobiles, c'était 15 ans. C'était pas maximum 20 ans, tu vois. Alors, évidemment, ça a continué à évoluer après, mais l'installation d'Internet, c'était 15 ans. Entre le tout début, la création, début 90, et on pourrait même dire que ça a commencé à arriver dans les foyers mi-90 et s'était installé mi des années 2000. Et ça continue à évoluer après. Mais c'est que 10 ans, donc je sais pas si ça prend 10 ans pour Léa, est-ce que c'est très différent ? Je sais pas.
Ah, c'est plus vieux qu'on le pense, hein, la partie IA. Ce qui a vraiment débloqué la situation. Enfin, toute la partie algorithmique, les modèles de langage, l'architecture, etc., ça, ça existe depuis très longtemps au niveau de la recherche, ça existait. Ce qui a vraiment débloqué la situation, c'était la puissance de calcul, la puissance de feu avec les cartes graphiques et tout ça qui est arrivé, qui a démultiplié l'usage. C'est vraiment à partir de là. Et là, ça a accéléré. Oui.
Mais on va atteindre des limites. Il y a 3 ans, quelque chose comme ça, que ça a vraiment commencé. Ou même, on peut dire, c'est avec l'arrivée de ChatGPT 3.5 et son interface de chat, donc à l'été 2022. Oui. On pourrait dire ça.
Oui, ce qui a fait exploser les usages, oui, et qui a fait connaître du grand public, c'est vraiment ça. Absolument. Ouais. Ça, je suis d'accord.
Donc l'été 2022, la poussière sera retombée en 2032, on dira.
Peut-être. Après, ChatGPT, quand il est réalisé là-dessus sur la partie interface web, les technos qui étaient dessous existaient déjà depuis plusieurs années. Hein.
Évidemment, mais de la même manière que Mosaïque a été construit sur des technos qui existaient depuis longtemps aussi, de transmission d'infos, une infrastructure, etc. Donc. Bon, l'équivalence n'est pas un pour un, c'est une comparaison.
Non, après la différence que je vois, c'est qu'on va vite taper des limites en termes de capacité de calcul quand même, hein, et enfin, tout ce qui est partie énergétique notamment. Enfin, on va taper des limites, hein, dessus. La production de cartes graphiques, les mines de matériaux qui sont utilisées pour construire tous les chips là-dessus.
Le truc, c'est que les modèles aujourd'hui sont des modèles hyper bruts, et c'est des trucs qui font un petit peu tout. Je pense qu'il est vraiment possible, et c'est probable, et c'est ce qui est en train de se passer, qu'on va beaucoup spécialiser les modèles, qu'ils vont être optimisés, qu'ils vont tourner sur moins de mémoire, sur moins de puissance, que la puissance va être optimisée. On parlait de Grok pas le Grok de Elon Musk, mais le Grok, la puce, tu vois, qui est optimisé pour la latence, etc. Moi, je ne suis pas convaincu que... c'est-à-dire que, oui, il y a plus de consommation, mais regarde, si on parle d'évolution de la tech, on est parti de la levure et on en est à parler de la loi de Moore, mais l'évolution de la puissance des processeurs, et c'est quelque chose d'exponentiel et le cerveau humain a du mal à comprendre l'exponentiel. La manière dont on peut aujourd'hui utiliser un processeur pour faire du calcul par rapport à ce que c'était il y a 30 ans ou 40 ans, il n'y a jamais eu une telle augmentation d'utilisation de quelque chose pour en essorer plus que ça dans l'histoire. L'augmentation de la puissance de calcul des processeurs, c'est impossible de la comprendre. On est passé de quelques milliers d'opérations par seconde à des milliards et des milliards. Et le nombre de processeurs sur une même taille, tu sais, de processeurs. Et donc, ce que je veux dire, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que sur l'IA, on a tendance à penser en linéaire, alors qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas exponentiel pour ça aussi. Tu vois, sur les demandes en calcul et sur la puissance possible, même si ça n'augmente pas, on pourra faire plus avec. Même si la demande énergétique n'augmente pas, il est possible qu'elle augmente aussi, mais même si elle n'augmente pas, on pourra faire plus avec. Tu ne crois pas ?
Ouais, je suis convaincu sur la partie. Enfin, je suis d'accord sur la partie croissance exponentielle. Par contre, tu vois aussi, en parallèle de ça, tu as la croissance exponentielle des usages aujourd'hui qui va arriver. C'est le truc qui est intégré un peu partout, etc. Les gens vont tous s'en emparer à tous les niveaux. Tu vas le retrouver dans ton OS, dans tous les outils que tu vas avoir. Tu en auras partout. Tous les smartphones vont l'embarquer, un modèle, etc. Enfin, tu vas l'avoir vraiment, vraiment, vraiment partout. Là, ça va exploser en termes d'usage. Et là, pareil, de manière exponentielle. Donc, est-ce que ça va suivre derrière, je ne sais pas, la capacité derrière d'hébergement, de puissance de calcul, de ressources énergétiques et tout ça. Je ne sais pas. Les modèles, ils sont monstrueux aujourd'hui. Ils sont monstrueux.
Ah, mais il y en a plus petits aussi qui sont très capables.
Il y en a des plus petits. Mais heureusement qu'on a ce travail-là d'optimisation des modèles.
Tu sais, il faut que ça tourne sur les téléphones. Il faut l'outil matériel qui sera le plus utile pour l'IA, c'est les téléphones, a priori, enfin les trucs que tu porteras avec toi. Donc, il y a une contrainte en enveloppe thermique, en enveloppe énergétique, qui fera qu'il faudra optimiser de toute façon. Bon, écoute, on se retrouvera en 2032 pour en reparler.
On fera le bilan, ça marche.
Et on fera le bilan en 2032 avec Christophe. J'espère que vous serez là pour nous écouter en 2032. J'espère que je serai là aussi. Et si je serai là, ça sera grâce à vous. Patreon.com/RDVTech, t'as vu cette transition incroyable ? Incroyable ! Magnifique. 15 ans de métier, monsieur. Patreon.com/RDVTech pour que je sois là avec vous en 2032. J'ai peut-être
et une croissance exponentielle aussi.
Croissance exponentielle du Patreon. Écoute, la loi de Moore pour le Patreon, c'est pas encore vérifié. Si vous voulez contribuer à la loi de Moore pour le Patreon, peut-être que ça va démarrer là. Tu vois, il y a un événement qui fait que changement de paradigme. Patreon.com/RDVTech pour soutenir cette émission que vous aimez bien. Soutenez les créateurs que vous aimez bien. Soutenez les créateurs et créatrices que vous aimez bien. Patreon est un site formidable pour ça. La pub, c'est pas mal. Les opérations sponso, c'est sympa. Le vrai moyen de garantir qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, c'est votre soutien. Et ce soutien se fait sur Patreon, notamment patreon.com/RDVTech. Merci à vous tous et à vous toutes de me soutenir. Christophe, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Ah, alors moi, vous pouvez m'en trouver sur tous les réseaux sociaux. Chris Kamikas, principalement, mais c'est sur Twitter si vous voulez me pinguer, principalement. Voilà, je crois même que je suis sur Blue Sky aussi, mais...
Je crois que je t'ai pas trouvé sur Blue Sky, Christophe. Donc,
je dois l'avoir. J'ai l'application. Ah, si, j'y suis. Okay. Mais,
très bien. Chris Kamikas.
J'ai l'application. Donc, Chris Kamikas, pareil. C'est pareil.
Chris Kamikas. Ok. Bah écoute, mais je ne te trouve pas sur Blue Sky. C'est bizarre. Chris Kamikas. Bon, écoute. On va résoudre ça. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous retrouvez aussi dans les notes de l'émission le lien vers le Discord, qui est un endroit super cool où on s'amuse bien avec des gens sympas. Vous avez aussi Twitch et YouTube tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et bien sûr, le Patreon que j'évoquais et la newsletter. Tout ça est dans les notes de l'émission. La newsletter, elle va être cool cette semaine. Vous pouvez vous abonner et c'est évidemment gratuit. Les Patriotes en reçoivent une version agrémentée de sujets supplémentaires intéressants que j'ai trouvé cool cette semaine. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Jeudi, on se retrouve pour le rendez-vous jeu. Je vais être un petit peu en vadrouille pour une semaine. Je dois faire un passage à Paris pour différentes raisons. Donc, ça risque de perturber un petit peu les émissions de jeudi et mardi, mais je serai de retour ensuite. Enfin, on aura un rendez-vous tech de toute façon mardi prochain et un rendez-vous jeu jeudi. Donc, on se retrouve jeudi pour ceux qui écoutent le rendez-vous jeu, des choses très intéressantes aussi, et mardi pour ceux qui écoutent le rendez-vous tech. Non, on va enregistrer lundi et pas en live. Enfin bref, c'est compliqué. L'émission sera dans vos flux de podcast mardi, c'est promis. On vous fait de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, 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 ciao.